La menace irakienne monte d'un cran. Il y a quelques minutes, à Téhéran, on indique que la guerre ira bien au-delà de la région en cas d'attaque américaine, façon de mettre la pression alors que Donald Trump a à nouveau mis en place un compte à rebours jusqu'à ce week-end. Mais on sait évidemment qu'avec lui, tout peut changer à n'importe quel moment. Donc on se demande de quel côté la pièce va basculer. Et c'est ce qu'on va voir avec nos envoyés spéciaux. Vous les voyez, ils sont répartis dans l'ensemble des pays concernés par cette crise, à la fois les pays du Moyen-Orient et bien sûr aussi les États-Unis. Et justement, écoutons Donald Trump depuis Washington. Le monde continue à être suspendu à ses déclarations. Voici les dernières en date.
Ça pourrait arriver dans 2 ou 3 jours, peut-être vendredi, samedi, dimanche, ou peut-être en début de semaine prochaine. Mais ça sera très limité dans le temps. Nous ne pouvons pas les laisser avoir la bombe nucléaire. S'ils l'avaient obtenue, ils auraient détruit Israël très rapidement. Ils en veulent aussi à l'Arabie Saoudite, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. Je pense qu'ils s'en prendraient à tout le Moyen-Orient.
Et voilà donc pour la menace américaine. Et pour ce qui est des menaces iraniennes, et non pas irakiennes évidemment, vous avez corrigé de vous-même, il y a donc cette déclaration il y a quelques instants sur la possibilité d'une propagation de la guerre bien au-delà de la région en cas de frappe américaine ce week-end. Eh bien, on a appelé aussitôt évidemment Siavosh Gazi quand on a vu cette déclaration. Vous êtes avec nous en direct, Siavosh. Que veut dire exactement le régime iranien quand il parle de cette menace au-delà de la région ?
Oui, bien sûr, il n'y a pas de précision, mais on sait que, par exemple, l'Iran a frappé la base, donc une base militaire britannique à Chypre lors de la guerre de 40 jours. Il y a aussi donc une frappe qui a été menée contre une partie de l'Azerbaïdjan, donc la région de Nakhchivan. Là, selon certaines sources, ce sont des radars américains qui ont été visés. Mais cela peut être aussi, par exemple, une attaque, parce que cela est évoqué par certains médias iraniens, une attaque contre l'Albanie. L'Albanie, où il y a une base des Moudjahidines du peuple, donc un groupe d'opposition armée contre l'Iran, qui possède une base en Albanie. Cela peut être également, par exemple, une des frappes contre en mer Rouge. Les médias iraniens, la télévision en particulier, a également évoqué des ciblages contre des satellites de surveillance américains qui sont à basse altitude, à 300 ou 400 kilomètres. Donc tout cela peut faire partie des cibles des gardiens de la Révolution. On sait que désormais, l'Iran possède des missiles intercontinentaux d'une portée supérieure à 5000 kilomètres. Donc, cela permet à l'Iran d'attaquer des cibles au-delà de la région, au-delà d'Israël, donc en Méditerranée même.
Est-ce que c'est ça les nouveaux fronts dont le régime iranien a parlé il y a déjà plusieurs heures maintenant ? Parce qu'au début, on s'était dit, il parle de la mer Rouge, il parle du Yémen, il parle de l'Irak. Mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que ça peut aller bien au-delà, y compris en Europe.
Y compris en Europe, en particulier l'Albanie, puisqu'il y a une base des Moudjahidines du peuple en Albanie. On sait que depuis le cessez-le-feu et même pendant la guerre de 40 jours, tous les jours, pratiquement toutes les bases des groupes kurdes d'opposition iranien ont été visées au Kurdistan irakien, et la base des Moudjahidines du peuple en Albanie pourrait constituer une cible pour l'Iran.
Merci beaucoup, Siavosh Gazi, pour cette explication de texte, quelques minutes après cette déclaration qui est évidemment assez forte, assez spectaculaire sur la perspective d'une guerre au-delà de la région en cas de frappe américaine. Patrick Sauce, on voit que l'Iran fait monter la pression dans ce laps de temps qui lui est donné avant une éventuelle reprise des frappes, si l'on en croit encore une fois les dernières déclarations de Donald Trump.
Oui, on parlait depuis hier des nouveaux fronts.
Ouais,
là, ils se font un peu plus précis. Ouais. Alors là, on rentre dans des choses pas tellement connues du grand public. Vous avez vu, Siavosh a beaucoup insisté sur l'Albanie.
Absolument.
Qu'est-ce que vont faire les Moudjahidines ?
Quand il parle des Moudjahidines du peuple, voilà, ce sont des opposants au régime.
Ce sont des opposants, eh bien oui, elle existe. Alors, il appelle ça une base, ou le régime appelle ça une base. Et c'est un alors, l'Albanie refuse d'appeler ça un camp de réfugiés, ce camp Ashraf 3. Mais depuis une douzaine d'années, en fait, vous avez environ 2300 opposants iraniens qui habitent là et qui vivent de façon totalement sécurisée. Ce qui fait que lorsque vous regardez un petit peu les images autour de ce camp, vous avez l'impression que c'est une véritable base militaire. Et c'est surtout une base assiégée. C'est pareil, nous, avec notre regard de Français, on voit pas tellement ce qui se passe juste en face de l'Italie en Albanie. Mais alors, c'est sans doute le pays qui est le plus ciblé par les cyberattaques iraniennes, voire par les attaques tout court. Donc c'est une espèce à la fois de camp de réfugiés, mais surtout un camp assiégé, ce camp Ashraf 3. Ouais. Et donc, évidemment, lorsque vous sortez la carte de l'Europe, vous voyez que l'Albanie est située en plein milieu. Souvenez-vous, lorsqu'on vous parlait des premières menaces de missiles balistiques iraniens, avec un rayon, ce rayon, singulièrement, va à peu près jusque-là. C'est donc, on extrapolait hier sur les nouveaux fronts, bien là, on a une idée précise de ce que ça pourrait donner.
C'est vrai, Marie-Laure Buisson, ils viennent nous rafraîchir la mémoire, Siavoche. On avait oublié ces menaces qui visaient notamment Chypre, au début du conflit, mais c'est à portée de tir iranien.
Absolument, les Iraniens ont des missiles qui peuvent frapper Chypre, ils en avaient fait la démonstration dès le départ. Et puis il y a quand même un type de menace qu'on a pas mentionné, qu'on a oublié, et que Siavoche Ghazi va certainement pas mentionner, j'imagine, mais c'est aussi éventuellement le terrorisme iranien.
Absolument, oui.
Ça, il faut y penser, parce qu'ils ont des proxys qui sont disséminés un peu partout en Europe, voire ailleurs. Il faut voir qu'il y a une diaspora iranienne qui est importante dans le monde entier, et on ne peut pas exclure qu'il y ait des attentats terroristes en Europe ou ailleurs, et qu'il soit une forme de rétribution criminelle à ce qui se passe en ce moment dans le Golfe. Donc oui, je crois qu'on est arrivé à un moment où les choses sont plus les événements sont plus exacerbés que jamais, et le président américain le fait sentir, les Iraniens le font sentir aussi. On a vu leur démonstration de force hier avec ces mariés, tout ça était d'ailleurs un peu pathétique, mais ça monte. On sent que ça monte et on sent que on arrive au point de rupture.
Oui, des mariés qui étaient prêts au sacrifice, on vous l'avait montré dans le journal. Il y a aussi ces images qu'on voit en ce moment, qui sont des images aussi diffusées hier soir par le régime, avec des grandes manifestations et des drones qui sont au milieu, sous-entendu évidemment prêts à les frapper. Emmanuel Guéliché, en plus, il y a cette expression employée par l'Iran qui laisse planer le doute au fond et qui laisse ouvertes toutes ces options dont on parle là, en disant simplement que cette guerre, elle pourrait aller bien au-delà de la région. On sent que c'est une ambiguïté stratégique, pour reprendre un terme connu de tous les géostratèges.
Oui, vous avez raison, et je rejoins tout à fait Marie-Laure. Effectivement, ils sont en train de montrer leur puissance. Ouais. Ils sont en train de montrer qu'ils n'abandonneront pas et que les exigences des Américains ne leur conviennent pas. Et donc, on va effectivement vers un conflit, à mon avis, qui va durer et qui va aller en crescendo.
Amiral, vous êtes également avec nous sur ce plateau pour nous aider à comprendre quelle est la réalité de la menace iranienne. Les missiles, ils peuvent aller jusqu'à Chypre, ils peuvent aller sur le sud de l'Europe sans qu'on les intercepte, ça c'est possible ou pas? On se souvient que c'est pour ça que le Charles de Gaulle était allé au début, sauf erreur, je parle sous votre contrôle, en Méditerranée. Hein.
Alors, ce que l'on sait de ces missiles, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une portée de l'ordre de 2000 km.
Hein. Ouais.
Donc, il suffit de mettre le compas au point de départ et ça vous donne le point d'arrivée maximum.
Donc, le sud de l'Europe.
Donc vous pouvez toucher partie de l'Europe, peut-être. Ça, c'est une menace. Alors, dans quel état est-elle après les bombardements américains? Ça, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Qu'est-ce qu'il leur reste comme lanceur? Qu'est-ce qu'il leur reste comme missile? Tout ça est un grand point d'interrogation, parce que quand même les frappes américaines et israéliennes ont quand même détruit.
On fait des dégâts, bien sûr.
On fait énormément de dégâts. On n'a pas la nature exacte de la situation.
Benjamin Patrouvert.
Ce qu'on est en train de voir, c'est que cette guerre des mots qui prêtait un peu à sourire il y a 24, 48 heures avec ses clips postés en intelligence artificielle faits ou par Donald Trump ou par les Iraniens, là maintenant il faut prendre très au sérieux cette guerre des mots. Parce qu'on voit bien que chacun est en train d'accompagner ses menaces par une mise en place d'un plan militaire. On voit bien, côté américain, hier, vous vous souvenez de ces images, on voyait les aéroports israéliens où du matériel arrivait, dans les aéroports
presque
israéliens.
Presque envahir, c'est peut-être le mot que vous cherchez.
Prêt à partir au combat. Côté iranien, il faut prendre également très au sérieux ces menaces. Pourquoi ? Les missiles utilisés jusqu'ici avaient une portée de 2000 km, grosso modo. Ouais. Il y a 1500 km entre Téhéran et Tel Aviv. Donc, c'était cohérent, et on a vu comment le Moyen-Orient jusqu'à Tel Aviv a été touché. Si maintenant c'est l'Europe qui est touchée, la distance entre Paris et Téhéran, c'est 4500 kilomètres. Un missile intercontinental, je pars sous votre autorité, je crois que c'est autour de ces 5000 kilomètres. Or, Siavosh Ghazi nous dit que d'après le pouvoir iranien, il disposerait de missiles intercontinentaux. Donc là, on est dans une vraie question. Est-ce que c'est un bluff ou alors c'est une réelle possibilité militaire? Enfin, et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit ma voisine, il y a le terrorisme dont malheureusement l'Iran s'est fait une très très grande spécialité. Et je vais même vous dire, moi je suis étonné que ce levier n'ait pas été utilisé depuis cette guerre. Plus précisément, peut-être qu'il a été utilisé, mais qu'on ne le sait pas, parce que des autorités dans différents pays ont peut-être déjoué des attentats.
Alors, il y a cette menace-là, il y a aussi la menace dans l'autre détroit, parce que c'est pareil, les outils, on en parle beaucoup depuis le début, pour l'instant, ils ne sont pas vraiment entrés en action dans ce conflit, ça peut être une menace. On va aller à Washington dans quelques instants pour prendre le pouls là-bas. D'abord, Marie-Laure Buisson.
Oui, ce que je voulais dire au sujet des missiles, c'est qu'en effet, on parle d'une portée a priori de 2500 kilomètres. Bon, sauf qu'on a vu avec l'affaire de Diego Garcia qu'il y a deux missiles qui sont partis à 4000 voire 4500 kilomètres, souvenez-vous, il y a à peu près un mois, et qu'on sait maintenant...
Diego Garcia, c'est la base américaine en plein milieu du Pacifique.
La fameuse base.
L'océan Indien,
la fameuse base d'où partent tous les B-52 ouais. américains. Bon, ça, donc, on sait déjà, même s'ils étaient à charge creuse, que ces missiles-là peuvent aller jusqu'à 4000-4500 kilomètres. Mais on sait par les services de renseignement que maintenant, les Iraniens ont un type de missile qui s'appelle le Simorgh, qui est maintenant opérationnel et qui peut aller jusqu'à 6000 km. Donc, j'en reviens à ce que disait Benjamin Petrovert, ça veut dire que parfaitement, l'Europe peut être touchée et peut être touchée dans l'Europe occidentale lointaine.
Alors, on peut espérer que du côté du Pentagone, on a aussi pas mal d'informations là-dessus pour informer le président américain Donald Trump. Quelle est la décision qu'il va prendre? Évidemment, personne ne le sait. Et Antoine Forestier, vous qui êtes à Washington avec Camille Fournier, vous êtes mieux placé que nous pour savoir que le président Trump, sa position peut évoluer d'une minute à l'autre. Il a donc fixé cet ultimatum, on l'a entendu à vendredi, samedi, dimanche, lundi, tout ça n'est pas très clair. Que peut-il se passer, surtout en attendant? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, cette semaine-là, du côté de Washington, pour essayer de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre?
Quand il évoque les négociations avec l'Iran, dans ses discours, dans ses interviews, Donald Trump le rabâche à chaque fois. Il ne veut pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. C'est la condition sine qua non pour laquelle il accepterait de signer un accord avec eux, entre autres. Sans engagement clair de la part de Téhéran, il menace donc de reprendre les frappes, mais ce n'est pas très clair parce qu'il dit que ces frappes pourraient reprendre vendredi, samedi, dimanche ou encore en début de semaine prochaine. Donc cet ultimatum est encore assez flou. Il a réuni en tout cas son Conseil de défense nationale pour la deuxième fois en trois jours avec les chefs d'état-major. Ils ont décidé des futures cibles à viser en Iran si jamais il reprenait ses frappes. Comment se passent les négociations? On a peu d'informations sur ce qui se dit entre Téhéran et Washington, mais malgré tout, J.D. Vance, le vice-président, se montrait plutôt optimiste hier face aux journalistes à la Maison-Blanche. Selon lui, il y a eu déjà beaucoup de progrès. Donald Trump, ensuite, dans un discours, a ajouté que cette guerre allait se terminer très rapidement, mais pour rappel, c'est déjà des propos qu'il tenait au mois de mars dernier.
Et oui, c'est sûr, on a du mal à y voir clair, malgré vos éclaircissements, Antoine, dans la nuit de Washington. Emmanuel Galichet, on a ces déclarations très provocatrices de part et d'autre, et de l'autre côté, Antoine qui nous dit, le vice-président qui est optimiste, et Donald Trump qui parle d'une fin de conflit rapide. Ces négociations en sous-main, sous-jacentes, sous l'égide du Pakistan sur la question du nucléaire, elles vous semblent malgré tout avancer un peu ou pas?
Alors, je suis pas dans les négociations.
Non, mais
je
vous
sais
connaissez
pas
les points les plus
moi,
sensibles.
Il me semble quand même qu'on est encore très très loin d'une possible réussite de ces pourparlers, parce que les exigences sont vraiment extrêmement éloignées, aussi bien du côté des États-Unis que du côté de l'Iran. Les États-Unis, de toute façon, ils ne veulent pas qu'ils aient l'arme, et l'Iran a décidé de s'en doter. Donc, vous voyez bien qu'on est vraiment à 180 degrés l'un de l'autre, et c'est assez compliqué de comprendre dans tous ces messages de tous les gens qui sont dans les pourparlers, de savoir qu'est-ce qui a pu avancer. Peut-être, par exemple, je pense que le point qui pourrait être le plus sûr au niveau de l'avancement, c'est le fait que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, revienne dans les pourparlers, peut-être pour mettre en place des petits axes techniques de vérification.
Ouais. L'Iran, en attendant, se sent évidemment forte on vient de le voir. D'autant plus que, Patrick Sauce, du côté du Congrès américain, on a dévoilé des données, des chiffres sur les dégâts infligés par l'Iran à, notamment, aux forces aériennes américaines.
Oui,
Les Iraniens disent que ça représente plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Oui, et souvenez-vous, au-delà des dégâts, il y a quand même une grande polémique sur la protection des soldats américains eux-mêmes. Les victimes, les morts, ceux qui sont revenus dans des cercueils, n'étaient pas des combattants pour l'immense majorité. Ils étaient simplement surpris dans l'un des entrepôts du Koweït, absolument pas protégés, alors que vraiment, comme ils étaient très nombreux, il était très probable que ce seraient les premières cibles. On est aux États-Unis, le pays où, tant bien que mal, le checks and balance et l'équilibre des pouvoirs fonctionne. Sans doute à rebours, avec beaucoup de temps, mais ça finit par fonctionner. Et l'addition commence à arriver sur la table de Donald Trump. Pourquoi il s'est énervé hier? On l'a suivi hier. Il tentait de faire encore une fois diversion en présentant le chantier de sa nouvelle salle de bal à la Maison Blanche. Évidemment.
Oui, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure quand on l'a entendu. On voit derrière le chantier.
Il y a deux, trois questions par politesse posées par les journalistes sur alors le chantier, ça avance. Ouais. Derrière, ça part quand même sur le fond du sujet. C'est là qu'il parle de son ultimatum, mais il est aussi extrêmement agressif vis-à-vis des démocrates et de quelques républicains qui commencent là aussi à se dire qu'on est parti beaucoup trop loin. Un, il y a eu des dégâts, on le montre ici. Deux, ça a coûté très cher. Trois, il est hors de question de se lancer dans une guerre très longue. On vous a parlé pendant des semaines parce que Pete Hegseth a voulu que ça fasse beaucoup de bruit, du fameux budget à venir des 1500 milliards de dollars à venir. Il faudrait peut-être qu'il soit voté déjà. Il est voulu par le pouvoir, par l'administration Trump. Mais avant ça, il faudrait, et je reviens à mon histoire d'addition, il faudrait déjà la payer parce que lorsque le budget de cette année a été voté, il n'était pas encore question de partir en excursion, comme le dit Trump. Et donc, s'il n'y a pas une rallonge qui est votée là, dans les prochains jours, ouais, prochaines semaines, eh bien, on va se retrouver à court. À court de quoi? C'est à court d'entraînement. On va devoir couper le budget dans les entraînements des Américains. On oublie de dire qu'il y a des milliers de soldats américains qui sont à la frontière sud des États-Unis face au Mexique pour assurer ce fameux mur quasiment humain. Il va falloir enlever des gens. Et avant même, donc, de penser à 1500 milliards de dollars et peut-être à de nouvelles frégates ou à ce nouvel avion qui serait le F-47 comme Donald Trump le veut, en fait, il va falloir déjà payer et assurer le paiement de la guerre en cours.
Amiral Villemot-Roussel, ils ont été sous-estimés par les Américains, les dégâts à la fois humains mais aussi matériels, comme on vient de le voir.
On n'aime pas parler des dégâts qu'on nous fait, hein, ouais, bien évidemment, et avec précision, parce que c'est un renseignement qu'on ne donne pas à l'ennemi. Donc, il est difficile de les connaître de très près. C'est vrai que les Américains n'en ont pas beaucoup parlé. On a cité malheureusement quelques morts, mais pas beaucoup. Compte tenu de l'intensité, je vais vous dire mon point de vue, c'est compte tenu de l'intensité de ces actions. Moi, j'ai été assez surpris par le fait que il y avait assez peu d'Américains qui ont été touchés. Alors, est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que ça a été remarquablement préparé? C'est-à-dire qu'on les a mis à l'abri, ou est-ce que c'était bien protégé? Je trouve que c'est un vrai point d'interrogation. Enfin, tant mieux que les choses soient passées comme ça. Mais je suis quand même un peu surpris que ce soit aussi faible en termes de
victimes.
Parce qu'il n'y a pas aussi non plus d'opérations terrestres. C'est aussi
Mais
on se souvient de cette opération commando pour récupérer un soldat américain qui s'est retrouvé dans une zone quasi désertique.
C'est extraordinaire d'ailleurs quand ils ont opéré de cette façon-là et que finalement tout le monde est rentré sain et sauf. Moi, je trouve ça remarquable.
Hein. Allez, allons en Israël maintenant pour voir le point de vue là-bas, parce que autant on sait que les pays du Golfe freinent les quatre fers pour une reprise des combats, en Israël c'est un petit peu différent. Et Clémence Dibou, vous qui êtes sur place avec Sébastien Savoie, ce que vous nous dites ce matin, c'est que du côté israélien, personne ne doute du fait que les frappes vont bien reprendre sur l'Iran.
Pour le gouvernement israélien, la question n'est pas de savoir quand, si Donald Trump va frapper l'Iran, mais quand Donald Trump va frapper l'Iran. C'est en tout cas ce qu'a confié une source officielle anonyme au journal Jérusalem Post. C'est la teneur ici. Pour Israël, il faut frapper l'Iran maintenant, tant qu'elle est encore un peu plus faible qu'au début de la guerre, parce que la menace existentielle, la menace nucléaire, la menace balistique, elle est toujours réelle pour Israël. Voilà pourquoi on a des déclarations comme ça distillées dans la presse. Et le but du jeu, c'est de montrer à Donald Trump que l'armée israélienne est prête. Et vous le voyez autour de moi, hein, la vie continue parce que évidemment il y a plein de groupes scolaires. Donc c'est pour vous dire aussi que la vie continue ici en Israël. Bref, l'armée israélienne est prête, l'armée de l'air est prête avec notamment des listes qui sont remises à jour très régulièrement. On va arrêter en fait parce que c'est pas possible de parler de la guerre alors qu'il y a des enfants qui sont derrière et à qui on avait dit de pas venir nous embêter en plus. Je suis désolée, je le fais en direct, mais c'est assez agaçant. Bref, l'armée israélienne est prête. Elle a des listes qui sont remises à jour régulièrement sur des frappes possibles pour l'Iran. Le but, c'est de montrer à Donald Trump que s'il faut faire la guerre, ils sont là. D'ailleurs, depuis que Donald Trump a fait sa déclaration comme quoi il repoussait de possibles frappes en Iran, pas de déclaration tonitruante ou fracassante du Premier ministre israélien ou encore du ministre de la Défense israélienne. D'ailleurs, les sources dans la presse israélienne expliquent que le gouvernement s'est un peu pris au dépourvu et ne s'attendait pas à une telle décision de Donald Trump.
Elle nous donne les dernières infos, elle fait la police sur place ou la maîtresse d'école, en l'occurrence, Clémence Dibou, en direct. Merci beaucoup. C'est vrai, Benjamin, que la position israélienne, c'est ce qu'on appelle du wishful thinking, c'est-à-dire à force de dire qu'on le veut, ouais, voilà, ouais. On fait en sorte que c'est une pensée autoréalisatrice, quoi.
D'abord, sur le contexte, il faut préciser que Clémence Dibou se trouvait à l'entrée du Souk HaKarmel, qui est le grand souk de Tel Aviv. Il y a une grande place où, évidemment, comme c'est une place piétonne, tout le monde circule dans tous les sens, parce qu'il y a un marché des artistes d'un côté, et le souk de l'autre côté, où vous allez acheter vos fruits et légumes.
Et voilà. L'ambiance est un peu dissipée.
Voilà, exactement, pour ceux qui connaissent cet endroit. Ensuite, sur le fond du dossier, vous avez raison, on a l'impression que côté israélien, il y a une conviction, il faut repartir au combat parce que le travail n'est pas fait. Et malheureusement, en tout cas malheureusement pour le point de vue israélien, Donald Trump, on le sent bien, ne veut pas repartir au combat. Et c'est la raison pour laquelle, jour après jour, il repousse en disant « je vous donne encore 24 heures, encore 48 heures, l'horloge tourne, etc. etc. » parce qu'il ne veut pas, et il veut essayer, on le voit bien, la voie de la négociation. Sauf qu'à un moment, la raison va aussi l'emporter. Est-ce que s'il n'y a aucune négociation qui aboutisse à quelque chose, eh bien le combat devra recommencer. Côté israélien, on voit bien que le doigt est déjà sur la gâchette, parce qu'il y a une obsession aussi israélienne, Julien, qu'il faut pas oublier, qui n'est plus côté américain, c'est faire tomber ce régime.
Alors,
ça a disparu justement des ambitions américaines, mais côté israélien, ça reste la base de tout.
Mais faire tomber ce régime pour mettre qui à la place? Et c'est là qu'on va s'arrêter un instant, parce qu'il y a des révélations de la presse américaine qui sont assez saisissantes ce matin, qui font ressurgir un visage que franchement, on n'avait pas vu venir, et on va le découvrir avec Fanny Wegscheider. Dites-nous, Fanny, qui est ce dirigeant que manifestement les Américains et les Israéliens ont tenté de faire ressortir de sa tanière?
Un homme bien connu en Iran, Mahmoud Ahmadinejad, ancien président de la République islamique d'Iran entre 2005 et 2013. Il a ensuite été empêché de participer à 3 élections présidentielles en 2017, 2021 et 2024. Et surtout, il a été en conflit croissant année après année avec les dirigeants qui ont suivi donc dans le pays, très surveillé également par le régime. Il est aussi un homme plutôt populaire auprès des classes pauvres du pays. Il a tenu des propos anti-corruption qui ont plu à une certaine partie de la population également, même si on sait que certains membres de son équipe, eux, ont été condamnés pour corruption. Mais ce sont des aspects qui, a priori, sur le papier, auraient pu plaire à Israël et aux États-Unis pour mener ce plan.
Alors, quel était le plan envisagé?
Alors, ce plan, en fait, après consultation tout d'abord donc de Mahmoud Ahmadinejad, il consistait à le libérer parce qu'il était sous surveillance dans son domicile, dans le quartier de Narmak. On est à l'est de la capitale Téhéran. Et ce plan, il devait se dérouler ainsi, c'est ce qui s'est passé. Une frappe aérienne a été menée par l'armée de l'air israélienne, visant donc la résidence de l'ancien président, plus précisément la petite loge des gardes à l'entrée qui le surveillait pour être sûr qu'il soit maintenu en surveillance rapprochée. Voilà, donc la résidence. Et donc les frappes ont touché ces gardes. Regardez les images en revanche qui montrent que l'opération ne s'est pas si bien déroulée que cela. Les dégâts sont assez importants. Alors certes, l'entrée et les gardes ont été touchés pour pouvoir permettre donc l'exfiltration, la libération de Mahmoud Ahmadinejad, mais il y a quand même eu des dégâts puisque l'ancien président a d'abord été déclaré mort, ce qui a été démenti assez rapidement. Il a survécu, mais il aurait été tout de même assez blessé. Et depuis, surtout, on n'a plus du tout d'images montrant Mahmoud Ahmadinejad publiquement. On ne sait pas s'il est toujours en vie, où il réside et où il se cache actuellement.
Alors évidemment, Fanny, on ne peut qu'être surpris parce qu'on ne peut pas franchement dire que Mahmoud Ahmadinejad soit un ami d'Israël et des États-Unis.
Oui, en effet, le New York Times notamment cite des proches, des responsables américains qui se sont dit sceptiques justement à la mise en place de ce plan israélien de libération, un scénario jugé risqué parce que On connaît les positions anti-Israël de Mahmoud Ahmadinejad. Il avait qualifié Israël de régime d'occupation qui devait disparaître de la page du temps en octobre 2005, à l'époque dans un discours en l'honneur de l'ancien Ayatollah. Il a été aussi assez critique en général à l'égard des États-Unis. Pas de Donald Trump précisément, mais plus globalement des États-Unis. Et puis surtout, c'est un soutien du programme nucléaire iranien. Donc là aussi, il y a des points sur lesquels ça a porté interrogation.
Merci beaucoup, Fanny. C'est vrai, Emmanuel Galichet, que ça, on ne l'avait pas vu venir. Est-ce que ça vous semble crédible ou pas ?
Ah bah si c'est on regarde sur le plan nucléaire justement c'est pas du tout crédible parce que c'était un homme qui a soutenu très fortement le programme militaire nucléaire iranien.
Ouais.
Et donc on voit pas comment les négociations sur cet angle-là pourraient aller vers des exigences acceptées par les États-Unis avec un tel dirigeant.
Marie-Laure Buisson.
Non, mais en plus de ça, moi, je me souviens très, très bien d'une photo en noir et blanc de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis à Téhéran en 1979, où on avait identifié la photo jeune de Mahmoud Ahmadinejad, qui faisait partie des fameux étudiants de la révolution islamique, qui avaient pris en otage les séides du grand Satan, c'est-à-dire le personnel diplomatique. Donc, je ne vois pas comment les Américains pourraient remettre sur le trône, si je puis dire, ce garçon, sauf à ce qu'ils aient un dossier épais comme ça sur ces turpitudes nombreuses et variées, auquel cas ils le tiendraient comme c'est pas permis, ce qui est encore la meilleure façon de faire.
Il est en rupture de bon avec le régime, il faut le rappeler quand
même. Mais il faut un peu plus que ça quand même. Il faut pouvoir ensuite lui dire, écoute, t'es ma marionnette, donc tu feras ce que je te demanderai de faire.
D'un mot, Benjamin, avant d'aller dans le golf.
Le faire chanter, c'est une possibilité. Ouais. J'avais pas du tout imaginé ça. Il faut rappeler que c'était l'un des plus virulents anti-israéliens, antisémites.
Oui,
on rappelle que lors de l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo, il avait organiser un concours de caricature de la Shoah et même une conférence négationniste autour de la Shoah. Donc que selon le New York Times, Israël et les Américains le choisissent lui pour être l'homme du futur,
ça paraît délirant.
Ouais. Surnaturel. Et puis attendez, regardez l'opération qui aurait été imaginée. Faire exploser sa porte pour lui permettre de fuir, le faire disparaître, ensuite le remettre au pouvoir. Bon, ça paraît quand même assez fou. On espère que les journalistes qui ont révélé ça au New York Times soient bien sourcés parce que
en général, c'est le cas.
Ça paraît assez fou. Voilà.
Allez, direction donc maintenant, je vous le disais, le golfe arabo-persique. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est une information qui nous vient des États-Unis, le renseignement américain. Vous savez que depuis plusieurs semaines maintenant, on parle de mines dans le détroit d'Ormuz pour empêcher le passage des bateaux, et ce qui explique une grande partie du blocage actuel. Mais on n'avait pas de certitude là-dessus, et le renseignement américain va plus loin maintenant. Théo Bassilana, on vous retrouve depuis le Qatar. Dites-nous ce que dit ce rapport américain précisément sur le minage.
Eh bien, il affirme qu'au moins 10 mines ont été détectées dans ce passage maritime et ces mines seraient présentes sous deux formes différentes. Tout d'abord, des mines mouillées sous la surface de l'eau, généralement ancrées par un câble, et puis des mines de fond qui, comme son nom l'indique, reposent sur le fond marin et se déclenchent grâce à ces capteurs acoustiques et magnétiques. Alors, on pourrait se dire ce matin que le nombre de 10 est assez faible, mais tout d'abord, on parle seulement des mines qui ont pu être détectées par les États-Unis. Et puis, il faut aussi se dire que la peur des mines est parfois plus efficace que les mines elles-mêmes. Maintenant, la question que l'on peut aussi se poser ce matin est la suivante. Est-ce que les Iraniens eux-mêmes savent où ces mines sont positionnées ? Plusieurs analystes doutent de cette capacité. Pourtant, de son côté, l'Iran semble avoir établi un couloir maritime sécurisé qu'elle utilise pour faire appliquer son nouveau mécanisme de gestion de ce détroit. En d'autres termes, la stratégie, elle est très claire. Nous avons miné le détroit, donc à vos risques et périls si vous y allez. En revanche, regardez, nous connaissons un couloir maritime sécurisé où vous pouvez passer en toute sécurité, en échange, bien sûr, de droits de passage. Voici, Julien, une démonstration concrète de la nouvelle autorité du Détroit appliquée par l'Iran.
C'est un sujet majeur, évidemment, sur la situation au sein du Détroit d'Ormuz. Merci beaucoup, Théo. Amiral, c'est aussi difficile que ça d'aller chercher une dizaine de mines. Pourtant, ça paraît pas le bout du monde.
D'abord, on ne sait pas si c'est une dizaine.
Ouais.
Souvenez-vous que on avait eu des images transmises par les Américains il y a 3-4-5 semaines peut-être, où on a vu des bateaux des Pasdaran qui minaient. Vous souvenez qu'il y a eu cette discussion, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, alors probablement qu'il y a des confirmations là-dessus, mais la mine, c'est vraiment l'obstacle le plus terrible qui puisse se présenter. Bon, il y a des mines à Orin, comme on dit, parce que celles-là, elles sont fixées, donc on peut les retrouver, et puis il y a des mines dérivantes qu'ils ont jetées dans l'eau et qui qui peuvent naviguer partout. Donc c'est vraiment une horreur. Si on veut véritablement faire quelque chose, il faut faire passer des chasseurs de mines, il faut faire passer des équipes de démineurs. Ça va prendre beaucoup de temps et on ne peut faire ça que dans des situations, je dirais, calmes, pas sous la menace de gens qui souhaitent empêcher.
Je pose une question de béotien. C'est pas possible d'envoyer juste une barcasse qui percute la mine, ça explose, on passe au chose.
Écoutez, il faudrait peut-être en envoyer plein pour être sûr que, parce que c'est un problème de probabilité. L'affaire de minage, c'est très simple, c'est la probabilité. Et vous savez que devant nos côtes françaises, on continue à déminer tous les jours.
Bien sûr.
Donc ça veut dire que quand on a miné un endroit, c'est quelque chose qui peut rester longtemps.
On voit la menace iranienne qui est toujours présente et même qui augmente encore d'un cran avec ces annonces du régime qui promet une guerre au-delà de la région en cas d'attaque américaine. On suit les derniers rebondissements de ce qui se passe dans la région avec nos envoyés spéciaux qui sont déployés, hein, vous les avez vus, et on va les retrouver tout au long de cette matinée à la fois au Moyen-Orient mais aussi aux États-Unis. On va les retrouver d'abord les dernières images et les dernières infos avec vous, Pauline Pioche. Bonjour Pauline.
Bonjour Julien. Cette déclaration, c'était il y a quelques minutes, qui nous vient de la part des gardiens de la Révolution qui promettent une guerre bien au-delà de la région en cas d'attaque américaine. Au-delà de la région, donc, du Moyen-Orient, les gardiens de la Révolution qui précisent, et nos coups dévastateurs vous écraseront. En fait, c'est une menace qui succède finalement à celle de Donald Trump. Nous pourrions devoir leur donner encore un gros coup. Il parle évidemment des Iraniens. Je ne suis pas sûre pour l'instant. L'Iran, qui avait déjà d'ailleurs menacé un petit peu plus tôt par la voix de son porte-parole de l'armée, qui menaçait d'ouvrir justement de nouveaux fronts dans cette guerre, ce qui vient rejoindre finalement la déclaration des gardiens de la Révolution. Je vous emmène maintenant au Liban, où le cessez-le-feu ressemble plus à un mirage. Les frappes israéliennes ont encore visé le sud du pays ces dernières heures, notamment la ville de Machouk, c'est au nord de Tyr. Un bilan humain particulièrement meurtrier. Bonjour Élise Philippe, vous êtes justement sur place pour BFM TV. Le Liban, Élise, parle même dénonce un massacre.
À Machouk, c'est un centre de santé qui a été visé hier après que l'armée israélienne a émis un avis d'évacuation pour un immeuble en particulier, en ordonnant aux habitants de cet immeuble de l'évacuer parce que, selon Tzal, à l'intérieur, ce bâtiment était utilisé par des terroristes du Hezbollah. Mais la frappe qui a beaucoup fait parler hier et ce matin encore, c'est celle qui a eu lieu dans le sud du Liban aussi, mais sur un autre village où là, une maison individuelle a été bombardée. Cette frappe a eu lieu hier après-midi et au moment du bombardement, à l'intérieur se trouvait une famille nombreuse. Le bilan est extrêmement lourd. Au moins 10 morts selon le ministère de la Santé libanais. Et parmi ces 10 morts, il y a 3 femmes, 3 enfants. Il y a aussi des blessés. Mais selon les secouristes qui sont encore sur place, qui étaient encore sur place ce matin, il pourrait y avoir plus de morts sous les décombres parce que la maison a été entièrement rasée. Cette frappe est l'une des plus importantes, sinon la plus importante de ces derniers jours.
Décision d'Élise Philippe avec Théo Touché pour les images. Et cette guerre, elle est également au cœur de cette rencontre entre le président chinois et son homologue russe. Visite particulièrement scrutée. À retenir d'abord la déclaration de Vladimir Poutine qui estime que la Russie joue un rôle dans cette guerre.
Dans le contexte de la crise au Moyen-Orient, la Russie continue de jouer son rôle de fournisseur fiable de ressources, tandis que la Chine reste un consommateur responsable de ses ressources.
Et puis pour terminer, cette deuxième déclaration à retenir, Julien, c'est celle du président chinois qui dit que la reprise des hostilités au Moyen-Orient serait inopportune.
Et voilà, on voit que les mots sont choisis, les mots de Xi Jinping sur cette guerre au Moyen-Orient, dont on ne sait pas encore si elle va reprendre ou pas. Mais en tout cas, du côté français, il faut prendre des mesures et se préparer à une crise qui peut durer encore longtemps. Et c'est ce que fait d'ailleurs le Premier ministre. En ce moment même, c'est le Conseil des ministres du côté de l'Élysée. Léopold Audebert, vous y êtes présent avec Marion Delpierre. Et évidemment, le sujet principal, ce sont ces milliards qu'il va falloir trouver.
Oui, avec cette image que m'expliquait un conseiller du gouvernement, c'est l'image de la balance. Il va falloir être très sur un fil d'équilibriste pour à la fois avoir des dépenses supplémentaires liées à ces aides qui vont être ciblées dans les prochaines heures via cette conférence de presse qu'on suivra ensemble sur BFM TV en fin d'après-midi. Et en même temps, l'argent n'est pas magique, m'expliquait-on. Il faudra donc qu'il vienne de quelque part. C'est sur cette formule, en quelque sorte, que le gouvernement cherche les meilleures solutions, à la fois récupérer de l'argent d'argent. Et vous savez que Sébastien Lecornu avait tablé sur 6 milliards d'économies supplémentaires liées aux conséquences de cette guerre au Moyen-Orient. Mais hier, lors de la séance de questions au gouvernement, il a dit que ces 6 milliards ne suffiraient pas forcément et qu'il faudrait trouver plus d'argent. On ne sait pas encore précisément de quelle somme, de quel milliard supplémentaire il faudrait pour que tout ça puisse être financé. Mais en tout cas, tout ça ne sera pas financé n'importe comment. Voilà comment, en quelque sorte, on nous explique les choses. D'après nos informations, ces aides supplémentaires qui seront annoncées demain, elles vont notamment prolonger cette liste de professions qui avait déjà été en partie établie par le gouvernement. Mais donc, toute la réflexion actuelle, si je reprends l'image de cette balance que je vous expliquais il y a quelques instants, c'est vraiment d'essayer de trouver de l'argent tout en finançant de nouvelles aides. Voilà le casse-tête auquel se prépare le gouvernement. Ici, évidemment, à l'Élysée, on suit la situation de près, en coordination avec le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Oui, on va voir. Merci beaucoup, Léopold, hein, comment, sur le fond, on peut trouver ces milliards concrètement. Mais d'abord, peut-être, sur la forme, sur le fond, comment trouver les milliards. Et sur la forme, Guillaume Darrey, je me tourne vers vous parce qu'on voit bien comment, d'abord, c'est Sébastien Lecornu, hein, qui prend tout le dossier en main. Absolument. Et qui perle sa communication depuis plusieurs semaines. On voit que les messages sont distillés, même si on se doute que dès le début, du côté du gouvernement, on avait bien compris que ça allait pas se passer de façon très agréable.
Il y a une façon de perler cela, une façon de mensualiser cela. Oui. On l'a vu, c'est-à-dire mois après mois, demain, ce sera les annonces pour le mois de juin, sans aucun doute, il dira, on verra à la fin du mois de juin s'il y a de nouvelles annonces pour le mois de juillet, si la situation est plus encourageante, on réduira les aides, si à l'inverse il faut aider davantage de personnes, sans aucun doute, cela sera fait également. Le Premier ministre qui en coulisses met l'accent sur une chose, à ses yeux, ça reste une crise d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il dit, pour l'instant, et tant mieux, ce qu'il a redit d'ailleurs à l'Assemblée nationale également, les infrastructures pétrolières n'ont pas été trop touchées. Donc, comme le pense le gouvernement, au moment où le détroit se rouvrira, à ce moment-là, eh bien, les prix baisseront. C'est pour ça qu'il ne veut pas faire des aides qui partiraient pour des mois et que ça coûterait trop cher. Donc, c'est ce sur quoi il met l'accent. Et autre chose, c'est de l'argent qui doit être trouvé ailleurs. Oui. Ce qu'il dit au ministère, c'est « je veux bien débloquer de l'argent », ça veut dire qu'on en gèle ailleurs et donc il faut faire des économies.
Et où le trouver cet argent, Gaëtan Mélin, vous êtes également avec nous. D'abord, le chiffre des 6 milliards, honnêtement, ça fait longtemps que plus personne n'y croyait. C'est un secret de Polichinelle qu'il a levé hier.
Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le Premier ministre garde le cap. C'est-à-dire que oui, on va aider un certain nombre de secteurs d'activité, mais sans que ça coûte le moindre centime finalement à l'État. Ouais. Ça veut dire que, effectivement, le coût de cette guerre, qui pour le moment est estimé à 6 milliards d'euros, mais qui pourrait très vite monter à 10 milliards, eh bien, ce sera, je dirais, à budget constant. Ça veut dire que Lecornu, le Premier ministre, a demandé à chacun de ses ministères d'étudier les coupes qui peuvent être faites. C'est-à-dire qu'on va examiner chaque dépense et on va voir celles qui sont prioritaires et celles qu'ils ne le sont pas. Ça va être intéressant hein, de voir surtout quels sont les ministères qui vont être concernés. On sait très bien que la défense est sacralisée. Mais quid de l'écologie, notamment ? On sait toujours que de ce côté-là, on essaie toujours de piocher. De la culture, notamment. On se posera aussi la question sur la santé ou bien encore l'éducation. Mais c'est vraiment toutes ces questions qui vont être intéressantes parce qu'encore une fois, le Premier ministre s'est donné pour objectif de respecter le déficit public et donc il n'y aura pas de dépenses supplémentaires.
Patrick Vignal est avec nous avec une casquette qui est à la fois une casquette politique et une casquette entrepreneuriale, Patrick Vignal, parce que vous avez ce double profil-là. Et il y a pas mal de chefs d'entreprise qui disent bah, c'est à nous qu'on va demander les efforts. Une fois de plus, on va augmenter les charges des entreprises. On se dirige vers ça ou pas ?
Bon, d'abord, déjà, moi, je voudrais remercier, vous l'avez dit, madame, hier, les Françaises et les Français. Ils font preuve d'une résilience exceptionnelle.
Mais jusqu'à quand ?
On oublie, Julien Arnaud. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est un conflit mondial. D'abord, personne n'a la recette, et vous l'avez dit, c'est de jour en jour, de mois en mois. Si demain, on débloque le détroit d'Hormuz, le carburant tombe et l'économie repart. Après, oui, on est un pays avec 3 000 milliards de dettes, avec une fiscalité de 45%. Moi, j'ai 8 salariés. Quand je vous donne 2 000 euros net, il reste dans la poche 1 300 euros. Ça suffit. On ne peut plus fiscaliser. Je vais être clair, c'est le système qu'il faut changer, Julien Arnaud. C'est plus possible. On n'a plus les moyens de dépenser doublement ce que l'on peut plus se payer. Et vous savez, il n'y a pas eu de campagne en 2022. Il n'y a pas eu de campagne. Cette campagne est de remettre tout à plat. C'est pas possible, 1200 agents. C'est pas possible, 45 ministères. On n'a plus besoin de ça. On doit penser autrement, y compris dans les collectivités.
Ça, c'est sur le très long terme. Mais là, évidemment,
mais c'est une obligation.
C'est pour les jours qui viennent.
Mais, que... mais je Arnaud, vous n'avez plus d'argent. Vous faites comment dans votre foyer si vous n'avez pas d'argent pour partir en vacances? Vous vous serrez la ceinture.
Mais c'est ce que font les Français.
L'État ne se serre pas la ceinture, ne sait pas faire, parce qu'il vit encore sur les années 80 où il y avait de l'argent dans les caisses.
Les Français se serrent la ceinture, les automobilistes aussi, évidemment, même si on va aller dans une station, voir avec vous Mathéo Rivière et Lenny Boccorni, que, alors, une légère éclaircie, on va dire, c'est le prix du gasoil qui a légèrement baissé.
Absolument, Julien. Dans cette station parisienne, moins 29 centimes depuis le début du mois d'avril. Ce qui nous fait un prix au litre de 2,09 €. Alors, c'est vrai que depuis 6 heures ce matin, on observe beaucoup de passages dans cette station des automobilistes à la quête de la moindre économie qui serre la ceinture depuis plusieurs semaines maintenant. Parce que vous l'imaginez, cette baisse, elle fait du bien au portefeuille des Français et des automobilistes qui attendent beaucoup plus, cela dit. Ils attendent surtout un retour à la normale des prix d'avant guerre et peut-être encore plus pour les automobilistes qui roulent à l'essence, parce que au contraire, le sans-plomb a augmenté plus 30 centimes par rapport au début du mois d'avril, ce qui nous fait 2,07 € pour le litre de sans-plomb 95, 2,17 € pour le litre de sans-plomb 98. C'est un record. Pourquoi une telle hausse, me diriez-vous? Eh bien, parce qu'à la différence du gasoil, eh bien, le sans-plomb vient des États-Unis et non du Moyen-Orient, et que au printemps, là-bas, eh bien, c'est la période où la demande est la plus forte. Résultat, à la pompe, eh bien, il faut payer un petit peu plus cher.
Oui, c'est une différence entre vous et moi, Mathéo. Moi, je pars de la pompe à moitié pleine et vous, vous nous emmenez sur la pompe à moitié vide. Yves Carra est également avec nous. Alors, on a parlé de cette baisse du gasoil parce que, voilà, on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut. C'est pas la tendance générale. Et il y a ces annonces demain. Vous attendez quoi? Vous demandez quoi, vous?
Bah, nous, ce qu'on demande à Mobilité Club France depuis des dizaines d'années, c'est la baisse des taxes sur les carburants. Tous les carburants. Voilà. On n'a pas à prendre dans la poche des Français plus de 50% sur un produit aussi essentiel.
Mais il n'y a pas d'argent dans les caisses, vous venez de l'entendre.
Ça fait des dizaines d'années qu'on le demande. On aurait peut-être pu le faire avant. Voilà. On aurait peut-être pu baisser les taxes. En Italie, ils l'ont fait en disant, bon, attendez, c'est que pendant 3 semaines, on verra après. Ils ont mis toutes les formes. En Espagne, ils sont pas trop bien parce qu'ils l'ont fait. Bon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, là, tout de suite, là?
Ouais.
Bah, pour ceux qui sont à l'essence, on a une solution toute simple. On passe au super éthanol.
Ah, voilà. Le boîtier.
On pollue beaucoup moins, c'est bon pour le portefeuille, et on roule. Moi, je roule au super éthanol, je fais un plein à 35 euros.
Et ça coûte combien de s'équiper?
Entre 800 et 1000 euros. Allez.
Quand même.
Oui, d'accord. Mais sur une solution.
Les portes qui courent, faut les trouver quand même.
Oui, mais sur une solution à long terme.
Moins cher qu'une voiture électrique.
Ça pourrait être justement une idée pour le gouvernement d'aider justement à l'équipement de l'automobile de ce boîtier. Finalement, si on veut raisonner écologiquement parlant, c'est-à-dire ne pas subventionner les énergies fossiles, voilà une mesure qui pourrait être intéressante.
Et c'est très bon pour les agriculteurs, ça leur fait un revenu complémentaire. En plus, c'est pas en concurrence avec l'alimentation, faut vraiment le préciser. En France, en tout cas, au Brésil, il y en a beaucoup qui sont au super éthanol. Il y a une association qui s'est créée qui s'appelle l'ARSE, A-R-S-E, qui justement subventionne à hauteur de 200 euros l'installation de ce boîtier. Il y a des régions qui le faisaient aussi à l'époque. Voilà. Donc on a une vraie solution, mais depuis très longtemps, qu'on n'utilise pas, c'est peut-être le moment. Pour le diesel, il faut rappeler qu'un diesel, ça consomme 20% en moins qu'une essence quand même. Donc déjà, même s'il est peut-être un petit peu plus cher, on consomme moins. Voilà, c'est. Et puis, si vraiment là tout de suite on veut changer, pourquoi pas? Et si on peut avoir une prise à la maison, je le précise, sans prise à la maison, vous oubliez. Pourquoi pas une voiture électrique d'occasion? Il y en a pas trop cher. On peut peut-être avoir une LO à LLD à 100, 150 euros. Ça peut être une solution. Hors leasing social.
Vous voyez, monsieur, le problème qu'on a, les politiques, et j'en prends ma part aussi, c'est qu'on ne sait pas s'adosser sur des belles propositions. Moi, je prends un exemple. J'ai acheté un véhicule électrique parce que je me suis rendu compte, effectivement, mais j'ai la chance d'avoir une maison et une prise.
Voilà.
Des locataires de logements sociaux, ils n'ont pas cette possibilité. Et si vous devez charger votre véhicule le soir, quand vous avez chargé 2 heures, vous payez une surprime, vous devez repartir chez vous le soir pour occuper votre véhicule. Moi, je pense qu'on devrait en profiter pour avoir un débat sur les mobilités, sur la place des trains, sur le covoiturage. Il y a des métropoles, je pense à celle de Montpellier. J'étais pas pour au départ, mais c'est une excellente idée où le tram est gratuit. Donc, dans les métropoles
mais
comme
Paris...
Mais
c'est pas gratuit, quand on vous dit gratuit. Non, pardon. Ouais.
Les impôts du contribuable, mais c'est du pouvoir d'achat supplémentaire pour le citoyen. C'est le premier point.
Mais c'est encore les impôts des ménages modestes. C'est encore la même chose, c'est-à-dire
c'est-à-dire que tous ceux qui ne prennent pas un impôt ne vont pas participer au financement de ce tramway gratuit dont vous parlez. Et encore une fois, on va faire peser sur les actifs et ceux qui payent les impôts ce mode de fonctionnement.
Alors, d'abord, c'est la taxe mobilité de l'entreprise, pour commencer. Mais en fait, le débat, il n'est pas là. Il est dans les zones rurales. Venez à Saint-Nazaire de Pézan, vous avez besoin de votre voiture. Donc, c'est pour ça, Julien Arnaud, que le train, aujourd'hui, il faut investir sur les infrastructures. Et moi, ce qui m'intéresse en politique, c'est qu'une crise puisse nous permettre de changer de paradigme. Éthanol, voiture électrique, c'est ça qu'on ne comprend pas.
Allez, alors, il y a des pistes très concrètes sur la table, vraiment pour conclure là-dessus, Fiona.
Oui, alors, pas seulement l'éthanol, mais tout ce qui est carburant liquide non carboné. C'est-à-dire, on peut tout sauf le pétrole. Et il faut s'y mettre maintenant. En 73, on a eu une première alerte. Il y avait un gros choc pétrolier. On a arrêté les compétitions automobiles pendant 6 mois en France, faut s'en rappeler. On n'en a pas tenu tiré les leçons. Maintenant, il faut se dire, l'objectif, on se débarrasse du pétrole. On est addict, hein, on est drogué. Mais il faut s'en débarrasser. Surtout, et dans tous les domaines, plastique et autres.
Surtout que cette crise, cette guerre, manifestement, on n'en voit pas le bout. Je vous rappelle cette déclaration forte de l'Iran qui dit que en cas de reprise des frappes américaines, le conflit ira bien au-delà de la stricte région du Moyen-Orient. Que veut dire précisément Téhéran quand ils disent cela? Et bien, c'est ce qu'on va vous dire dans quelques instants. À tout de suite. En cas de reprise des frappes américaines, le conflit pourrait s'embraser au-delà de la région du Moyen-Orient. En tout cas, c'est ce que dit l'Iran ce matin, la dernière menace en date du régime de Téhéran. Un nouveau rebondissement dans cet entre-deux qu'on va vous raconter avec nos envoyés spéciaux qui sont déployés dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient, ainsi bien sûr qu'aux États-Unis. On va les retrouver, hein, comme chaque jour, les uns après les autres pour connaître les derniers rebondissements dans cette crise. Mais on va commencer par aller en Iran, donc, parce que le régime a décidé de monter le niveau de la menace en disant que les choses pourraient s'embraser, donc au-delà de la région, s'il venait à l'idée de Donald Trump de frapper à nouveau.
On sait que, par exemple, l'Iran a frappé la base, donc une base militaire britannique à Chypre lors de la guerre de 40 jours. Il y a aussi donc une frappe qui a été menée contre une partie de l'Azerbaïdjan, donc la région de Nakhchivan. Selon certaines sources, ce sont des radars américains qui ont été visés. Mais cela peut être aussi, par exemple, une attaque, parce que cela est évoqué par certains médias iraniens, une attaque contre l'Albanie, où il y a une base des Moudjahidines du peuple, donc un groupe d'opposition armée contre l'Iran, qui possède une base en Albanie. Cela peut être également, par exemple, une des frappes contre en mer Rouge. Les médias iraniens, la télévision en particulier, a également évoqué des ciblages contre des satellites de surveillance américains qui sont à basse altitude, à 300 ou 400 kilomètres. Donc tout cela peut faire partie des cibles des gardiens de la Révolution. On sait que désormais, l'Iran possède des missiles intercontinentaux d'une portée supérieure à 5000 kilomètres. Donc, cela permet à l'Iran d'attaquer des cibles au-delà de la région, au-delà d'Israël, donc en Méditerranée même.
Est-ce que c'est ça les nouveaux fronts dont le régime iranien a parlé il y a déjà plusieurs heures maintenant? Parce qu'au début, on s'était dit, il parle de la mer Rouge, il parle du Yémen, il parle de l'Irak. Mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que ça peut aller bien au-delà, y compris en Europe.
Y compris en Europe, en particulier l'Albanie, puisqu'il y a une base des Moudjahidines du peuple en Albanie. On sait que depuis le cessez-le-feu et même pendant la guerre de 40 jours, tous les jours, pratiquement toutes les bases des groupes kurdes d'opposition iranien ont été visées au Kurdistan irakien, et la base des Moudjahidines du peuple en Albanie pourrait constituer une cible pour l'Iran.
Voilà, donc Siavash Ghazi qu'on a appelé, évidemment, juste après cette menace fracassante et très lourde du régime iranien. Et c'est vrai, Patrick Sauce, que dans ce que nous dit Siavash et l'ensemble des cibles possibles qu'il énumère, ça nous rappelle des souvenirs qu'on a un peu oubliés, hein, mais au début de la guerre, déjà, les missiles iraniens avaient été pointés vers le sud de l'Europe.
Hein. Oui, avec cette menace qui était très forte, là, ce qui a changé, c'est évidemment l'interrogation sur le nombre de missiles, mais aussi, ça se lance pas avec un lance-pierre, l'état des lanceurs, on vous a beaucoup vous a donné beaucoup de chiffres sur des batteries de lancement de missiles, mais pas forcément de ce niveau-là. Et donc on ne sait pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus gros. On vous l'a montré. Mais effectivement, cette menace qui peut aller très loin. Là, vous avez un petit peu le catalogue de ce que. Justement, c'est le cas de le dire. Un catalogue, ce qui ne veut pas dire qu'en pratique il y a tout ça et en nombre. Mais voilà, jusqu'où peut aller l'Iran avec là aussi une interrogation sur la portée de ces missiles. Il y a ce qu'on sait, c'est-à-dire des missiles qui peuvent aller jusqu'à 2000 km et peut-être d'autres qui peuvent aller plus loin que ce qu'on va vous montrer, c'est-à-dire vraiment le premier périmètre. Là, vous voyez, ces missiles, ils peuvent aller jusqu'en Israël, mais ensuite, on va pouvoir aller jusqu'aux côtes de l'Adriatique. Et c'est ce qui nous intéresse ce matin, puisque sur les bords de l'Adriatique, vous avez l'Albanie. Ouais. Là, c'est pareil, ça doit nous rappeler un certain nombre de souvenirs, voire c'est une découverte pour le grand public français, c'est-à-dire qu'effectivement, une demi-heure à l'ouest de Tirana, la capitale, vous avez depuis 2012-2013 un camp de réfugiés. Alors un drôle de camp de réfugiés, c'est-à-dire que jusque-là, l'organisation des Moudjahidines du peuple qui avait été expulsée d'Iran dès 1981, avait trouvé refuge en Irak. Ça devenait de plus en plus difficile, notamment parce qu'il y avait les milices chiites pro-iraniennes qui harcelaient ces Moudjahidines du peuple. Et alors, Washington comme l'ONU ont demandé à l'Albanie d'accueillir ces réfugiés. Ils étaient 200 au départ, et puis au fur et à mesure, la diaspora est venue, et il y a quasiment 3000 personnes. Alors ça ressemble, il faut imaginer un kibboutz surarmé, c'est-à-dire vraiment il y a tout ce qu'il faut pour vivre en autarcie, et puis autour il y a des barbelés et il y a des systèmes d'autodéfense jusqu'à un certain point sur un territoire albanien qui, attention,
albanais,
je vous disais, il y a un problème, et surtout le problème pour l'Albanie, c'est que c'est un territoire de l'OTAN. Ouais. Et donc, là aussi, cette menace, elle se fait à la fois sur les Moudjahidines du peuple, sur les opposants, mais aussi sur un territoire donc de l'OTAN, un territoire albanais.
Amiral Villemorosel, que sait-on sur la réalité de cette menace et sur la portée de ces missiles dont on disposerait, on parle toujours au conditionnel, l'Iran?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la portée d'un missile, ce n'est pas la partie délicate du missile. Vous pouvez augmenter la portée facilement en rallongeant le missile et en mettant un propulseur de même type. La difficulté, c'est qu'est-ce qu'il va frapper? Comment va-t-il découvrir sa cible? Comment il va pouvoir cibler la cible qui a été choisie? Ça, c'est la vraie difficulté. Alors, vous me direz que c'est peut-être pas le problème des Iraniens. Une fois que le coup est parti, quel que soit l'endroit où il tombe, il pourra toujours dire c'est là où on voulait effectivement agir. Mais il faut bien faire la distinction entre la portée et la capacité à détruire un objectif particulier à grande distance.
David Rigoleros, que sait-on sur les capacités qui restent au régime iranien? Parce que là aussi, il y a énormément d'informations contradictoires depuis plusieurs semaines.
Oui, mais c'est très difficile de savoir de toute façon, parce que c'est une boîte noire. Donc il y a des estimations contradictoires, vous évoquez celles qui sont sorties dans la presse. Ouais. Et puis il y a le chef de l'USNCOM qui a déposé aux commissions au Sénat. Il a expliqué quand même que la guerre d'attrition menée par les Américains avait été quand même très efficace et que ça avait affaibli pour plusieurs années les capacités et balistiques et d'autres vecteurs de l'Iran.
Ce qui démentait d'autres informations parues dans la presse quelques jours plus tôt. Donc c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver.
Oui, il faut être très prudent de toute façon, parce qu'on n'est pas sur place, on ne peut pas évaluer de toute façon les dégâts. Ce qui est sûr, c'est que les Iraniens ont conservé une capacité non négligeable pour une raison très simple, c'est que depuis plusieurs décennies, ils s'enterrent. Donc la production de missiles et en continu se fait justement en étant très protégé à des profondeurs très importantes auxquelles les munitions américaines pour lesquelles les munitions américaines n'ont pas accès, en fait. Même la GBU 57 qui va jusqu'à 60 mètres, quand vous êtes au-delà, de toute façon il y a un effet de seuil qui fait que c'est limitatif. Donc il y a une capacité qui est maintenue, simplement on peut pas la mesurer quantitativement et qualitativement de manière suffisamment spécifié pour pouvoir dire que la menace est à tel niveau de...
Antoine Masmous.
Les menaces iraniennes sont une réplique à celle de M. Trump. Et donc, il ne faut pas s'étonner, même s'ils n'ont pas les capacités, ils ont l'annonce capacitaire. Mais nous avons vu au début de la guerre précédente, en mars, qu'ils avaient tiré 2 missiles sur Diego Garcia, donc à plus de 4000 kilomètres de là, qui n'ont pas atteint leurs objectifs parce qu'ils étaient détruits en plein vol. Ils ont tiré 2 ou 3 missiles qui ont été interceptés par-dessus la Turquie, mais on ne savait pas quelle était la destination de ces missiles balistiques. Ils ont chargé le Hezbollah de tirer sur la Chypre et la base acrotirie des Britanniques à Chypre. Là, ça a été intercepté. Eh bien, il restait l'Azerbaïdjan qui a été frappé, mais pas énormément. Ça, ce sont les capacités balistiques. En revanche, sur les cibles classiques, c'est en face dans le Golfe, c'est-à-dire gisements, désalinisation, ouais. Stations, infrastructures, stations électriques. Mais il reste aussi une inconnue qui mérite qu'on s'y attarde, ce sont les Houthis au Yémen. Jusque-là, ils ont fait le service minimum, même s'ils ont été extrêmement sollicités. Un dimanche après-midi, il y a eu plein de drapeaux à Téhéran, des Houthis en les appelant au secours. Il y a eu plusieurs fois des discours de Mujtaba ou attribués à Mujtaba Khamenei, le nouveau guide suprême, pour les solliciter en leur disant « Vous avez été très bien aux côtés de Gaza, maintenant il faut intervenir à nos côtés ». Ils ont lancé 6 missiles sur Israël ou drones qui ont été interceptés parce qu'ils ont été en plus renseignés. Donc c'est la question à laquelle il faut répondre, est-ce qu'à un moment donné, si les Houthis estimaient que l'Iran va l'emporter sur les États-Unis et Israël, ouais. À ce moment-là, ils se mettraient dans la boucle et attaqueraient le détroit de Bab el-Mandeb. Sinon, ça ne sera pas le cas.
C'est vrai, Marie-Laure Buisson, qu'en disant cela, les Iraniens, ils ne ciblent pas de points précis réellement, mais ils ouvrent un certain nombre de portes qu'on est en train d'ouvrir, parce qu'il y a le sud de l'Europe, il y a ce fameux détroit de Bab el-Mandeb qui, s'il se fermait, aurait des conséquences alors, mais encore plus dévastatrices pour l'économie mondiale. Il y a aussi l'Irak, on voit la carte ici, il y a aussi le terrorisme. Bref, on sent que l'Iran est en train de déployer toutes les cartes dont le pays peut disposer.
Oui, je pense qu'ils font feu de tout bois. Ouais. Ils font feu de tout bois et je ne suis pas sûr qu'ils soient si à l'aise que ça dans leur position stratégique, en réalité. Raison pour laquelle, d'abord, ils ont vu que les Houthis, pour reprendre ce que disait Antoine Bazbous, les Houthis, pour l'instant, n'ont pas bougé. Alors, on dit qu'ils ont été payés par les Saoudiens pour ne pas bouger. Par ailleurs, ils sont assez bien installés là où ils sont au Yémen. Ils sont en train plutôt de gagner des positions stratégiques là
donc
où
ils sont. Ils sont moins aux ordres que le Hezbollah. Quoi,
donc ils sont
forcément.
Moins aux ordres que le Hezbollah. Ça c'est la première chose. Et puis voilà. Donc les Iraniens, oui en effet sont en train de faire feu de tout bois. Mais moi il y a une chose qui m'a quand même beaucoup frappée, sont ces images de propagande qu'on n'a pas revues là ce matin, mais qui étaient dans le fond assez pathétiques parce que elles ont tourné en boucle hier. On voyait cette population qui portait des fusils qui sont des copies chinoises de AK-47 qui s'enrayent d'ailleurs au bout de 2 coups à peu près. Et on voyait cette population où il devait y avoir 300 ou 200 personnes, nous en croire qu'il y en avait 10 000 derrière. Mais bon, ça c'est la magie.
Ça, c'est la propagande.
C'est la propagande. Enfin, d'abord, qui peut croire un seul instant que les autorités iraniennes ont donné des armes à leur peuple pour se battre? Jamais, puisque la première chose que fera le peuple s'il a des armes, ça sera de se retourner précisément vers les dirigeants. Donc je trouve que quand on repense à la propagande du début, avec les Playmobil qui étaient assez fines, qui tournaient Trump en dérision.
Les Legos, excusez-moi.
Qui étaient très fines, qui étaient très méprisant, très pleine d'humour, qui tournait Trump en dérision. Quand on voit maintenant cette propagande qui objectivement donne l'impression d'un pays du tiers-monde avec 4 fusils et demi en train de dire on se battra jusqu'à la mort en sautant en l'air, je trouve qu'il y a quand même
Il y a un décalage. Alors, comment juge-t-on ce décalage du côté américain maintenant? En tout cas, on voit ce que dit l'Iran, c'est une réponse à ce qu'a dit Donald Trump il y a quelques heures seulement. Écoutez.
Ça pourrait arriver dans 2 ou 3 jours, peut-être vendredi, samedi, dimanche, ou peut-être en début de semaine prochaine. Mais ça sera très limité dans le temps. Nous ne pouvons pas les laisser avoir la bombe nucléaire. S'ils l'avaient obtenue, ils auraient détruit Israël très rapidement. Ils en veulent aussi à l'Arabie Saoudite, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. Je pense qu'ils s'en prendraient à tout le Moyen-Orient.
Voilà, et le chantier derrière, c'est le chantier de la salle de bal de la Maison Blanche. Et c'est à l'occasion de cette visite de chantier que des questions lui sont posées, évidemment, sur la situation. Mais Donald Trump, il est autant intéressé par le sujet de la salle de bal que par la guerre, manifestement. Antoine Forestier, vous qui êtes à Washington, dites-nous quel est l'état d'esprit, parce qu'on est dans un entre-deux, on le voit bien. Tout le monde attend de voir ce qui pourrait se passer d'ici à ce week-end. Quels sont les nouveaux éléments qu'on peut attendre dans les heures qui viennent?
Oui, la menace n'a pas changé. Elle se résume en une phrase. L'Iran doit renoncer à se doter de l'arme nucléaire. Sinon, eh bien, les frappes reprendront. C'est en substance qu'a expliqué J.D. Vance quelques heures après que Donald Trump ait pris la parole. Il est venu en salle de presse pour faire en quelque sorte le service après-vente. Il a expliqué aux journalistes qu'il y avait malgré tout une note d'optimisme dans ces négociations entre Téhéran et Washington parce qu'il y avait eu beaucoup de progrès dans ces négociations. Il a également déclaré que cette guerre ne serait pas une guerre sans fin. Selon le média américain Axios, Donald Trump a réuni deux fois ces trois derniers jours son Conseil de sécurité nationale. Un plan militaire a été élaboré pour en fait définir les futures cibles des éventuelles futures frappes en Iran. Depuis le début de la guerre, Donald Trump a déjà fixé de nombreux ultimatums. Il l'a fait une nouvelle fois, mais cette fois-ci, ce n'est pas très précis. Le président américain qui a déclaré que si l'Iran n'accepte pas ces conditions, eh bien, de nouvelles frappes pourraient avoir lieu vendredi, samedi, dimanche ou alors en début de semaine prochaine.
Oui, vous avez raison, hein. C'est vous qui nous rappeliez hier, Antoine, avec Camille Fournier, que Donald Trump, c'était un habitué des ultimatums, mais en général, ils sont plus précis que ça. Là, c'est une fin d'ultimatum qui est assez glissante, assez floue, et on va voir comment il faut lire cette nouvelle façon de faire. Et c'est vrai, Antoine Basbous, qu'on a du mal à s'y retrouver entre les menaces de part et d'autre, qui sont très très fortes, et ce que nous dit Antoine sur J.D. Vance, qui se dit plutôt optimiste. C'est Donald Trump qui, lui aussi, voit une fin de conflit rapidement. Est-ce que vous arrivez, vous, à y voir clair ou pas?
Ça fait 45 jours que M. Trump dit ils vont nous livrer les 440 kilos d'uranium enrichi, démenti aussitôt par les Iraniens. Ils sont prêts à signer, ils me sollicitent, ils me supplient pour signer. Ben, on voit l'inverse à Islamabad, on l'a vu partout. Donc, M. Trump, je ne sais pas sur quoi il s'appuie pour être aussi optimiste. En revanche, en face, on voit qu'ils ont entre-temps privatisé le détroit. Maintenant, il va y avoir une autorité, il va y avoir un péage. Et donc, on se dit, mais c'est une défaite américaine monumentale. Jusque-là, au bout de 3 mois de guerre, ouais. Si on fait le constat au jour d'aujourd'hui, c'est une défaite totale des États-Unis. Alors que le rapport de force aurait dû être inversé. C'est-à-dire que le plus puissant qui entreprend une action est dans l'échec, alors que celui qui était sur la défensive, malgré ses pertes, eh bien, il s'en sort.
Est-ce qu'on n'est pas, David Rigolet-Rose, avec en coulisses un affrontement entre deux influences, l'influence des pays du Golfe, qui ne souhaitent pas la reprise des frappes, et l'influence d'Israël, qui souhaite, elle, cette reprise?
Oui, alors ça dépend des pays de quel pays du Golfe on parle, parce que pour ce qui est des Émirats, il y a quand même un lien de plus en plus explicite avec Israël. Alors c'est le prolongement de la dynamique d'Abraham de septembre 2020, ce qui explique d'ailleurs les dissensions entre certaines pétromonarchies. Et puis il y a des éléments qui sont un peu passés sous les radars, mais qui ne sont pas négligeables du tout. C'est l'installation des Pakistanais en Arabie Saoudite. 8000 hommes, une quinzaine d'avions très performants qui ont fait leur preuve dans les combats avec les Indiens dernièrement. D'ailleurs, ça a suscité un débat sur nos rafales, etc. Mais en tout cas, et puis des intercepteurs. Il faut rappeler qu'il y a un accord de sécurité, un pacte de défense entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan, qui est un médiateur. Paradoxalement, hein, dans cette affaire, avec implicitement le parapluie nucléaire pakistanais au profit de Riyad. Tout ça n'est pas anodin. Hein. Et on n'a pas tellement relevé cette installation, mais 8000 hommes, c'est conséquent. Une quinzaine d'avions, c'est conséquent. Ça veut dire que s'il y avait théoriquement des cibles qui étaient engagées sur le territoire saoudien, logiquement, il y aurait potentiellement une réplique par les Pakistanais installés sur le sol saoudien, alors même qu'ils sont médiateurs par ailleurs. Donc on voit à quel point les choses sont quand même compliquées, et le Pakistan étant un relais de la Chine dans la région. Donc c'est kaléidoscopique, on va dire. Hein.
Oui, il y a des tas de fils à tirer, évidemment. Il y a aussi quelque chose qu'on a assez peu souligné parce qu'on n'avait pas les informations. Mais là, maintenant, c'est le Congrès américain qui les donne. ces informations, ce sont les dégâts infligés à l'aviation américaine. Et c'est l'Iran qui relève ce rapport du Congrès en montrant ici tout ce qui a été frappé. Et Amiral Villemoroussel, on voit que selon le Congrès, en tout cas, 4 F-15 qui ont été abattus, un F-35, il y a également un AWACS qui a été abattu. Ce sont des dégâts importants, mais à l'échelle de l'armée américaine, c'est assez marginal.
C'est marginal.
Ah oui?
Je pense que oui. Je pense que ceux qui ont fait, qui ont réfléchi à la façon dont ils allaient mener cette campagne, avaient prévu des pertes beaucoup plus importantes.
Ouais.
Et je pense que là, c'est pas grand chose compte tenu du nombre de vols qui ont été effectués et de la défense aérienne qui avait en face. Donc, non, moi, ça me paraît très, très raisonnable, hein. Je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein, je pense.
Sauf sur les radars.
Sauf pour la AWACS qui a été décrit. Bah, et puis, en fait, oui,
Il y a deux systèmes TAD quand même qui ont été touchés. Oui, et puis il y a le radar Transhorizon du Qatar qui a été...
Oui, mais n'oubliez pas que ça a été fait au sol.
Oui,
ça n'a pas été fait en vol. Ça veut dire que c'est pas l'armée de l'air américaine qui a mal agi. C'est simplement que effectivement, on a concentré un maximum d'avions à un endroit, donc c'était facile de pouvoir tirer dans le tas, si je puis dire.
Antoine Basbous, avant d'aller en Israël.
Il y a la AWACS qui a été touchée au sol en Arabie, des avions touchés par des tirs amis au Koweït. Il y a un ravitailleur en vol au-dessus de l'Irak, on ne sait pas de quelle manière il a été touché. Et le F-35, dont on a suivi la recherche des deux pilotes, et puis un A-10. Mais sur 20 000 sorties, quand on a 3 avions qui ont été touchés en mission, ou 2 tout au moins, eh bien, c'est pas énorme.
Voilà donc pour ce bilan chiffré et les conclusions qu'il faut en tirer. On a dit que les points de vue entre les différents pays étaient pas forcément les mêmes et on a déjà rappelé ici que du côté israélien, Benjamin Netanyahou, lui, souhaitait la reprise des frappes et on va retrouver Clémence Dibou qui est en Israël. Et ce que vous nous dites, Clémence, c'est que il y a eu ces dernières heures des échanges directs entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump.
Avec un coup de fil entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, qualifié selon des proches de long et dramatique. Selon, croit savoir la presse, la télévision israélienne, la 12, pas plus d'informations. On imagine bien qu'ils ont dû parler de cette décision de Donald Trump de retarder, de repousser les frappes en Iran. Et ça, évidemment, ce n'est pas pour plaire au gouvernement de Benjamin Netanyahou qui considère, lui, que la menace existentielle de l'Iran est toujours là, la menace nucléaire, la menace balistique, et qu'il faut agir au plus vite pendant que l'Iran est encore assez faible. Or, il semble bien que Benjamin Netanyahou n'est plus autant qu'avant l'oreille de Donald Trump. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il n'y a eu aucune communication ni avant ni après ce coup de fil à l'heure où on se parle, alors qu'il y a quelques jours, avant même de parler à Donald Trump, Benjamin Netanyahou a fait une déclaration publique pour dire qu'il allait appeler son ami Donald Trump, je le cite. Peut-être qu'il y a un changement de ton en ce moment. Israël veut toujours continuer à parler à Donald Trump et lui dire que si des frappes étaient décidées, Israël, l'armée israélienne et surtout l'armée de l'air se tient prête, avec des objectifs très clairs de cibles, des cibles qui ont été concertées avec l'armée israélienne et l'armée américaine. Sauf que, il semble bien que Donald Trump ait un petit peu moins prêté l'attention à ce que voudrait Israël. D'ailleurs, la presse bruise d'informations qui explique que le gouvernement israélien aurait été prévenu au tout dernier moment, un tout petit peu avant que Donald Trump annonce qu'il renonce à des frappes en Iran et qu'il serait un peu tombé des nues parce qu'il pensait avoir convaincu Donald Trump. On en est réduit, à vous redire ce que la presse israélienne croit savoir de sources officieuses. Pourquoi ? Parce que vous noterez qu'il n'y a pas eu de déclaration officielle en Israël pour commenter cette décision de Donald Trump de reculer les frappes.
Et on voit que la versatilité de Donald Trump, c'est pour les médias du monde, Clémence, mais on voit avec vous que c'est aussi pour Benjamin Netanyahou. Manifestement, Patrick Sauce, elle nous parle d'échanges dramatiques. Clémence Dibou.
Pardon, c'est moi-même qui ai retrouvé l'info dans les médias israéliens. Et effectivement, c'est Axel Monnier qui, depuis Washington, où il est déjà réveillé, nous dit « Attention, faux amis, dramatique, ça peut être décisif ou vous voyez, parce que dramatique a un côté un peu théâtral. Mais Clémence a a raison d'insister sur le fait que il y a beaucoup de fuite du côté des médias israéliens et on sent que, alors qui dit fuite dit parfois une volonté de faire passer le message du côté d'Israël, je crois qu'on l'a compris, qui veut frapper laisse entendre le fait que eh bien les Israéliens, que Tsahal pourrait frapper seul, ce ne sera pas le cas parce que ça n'est pas possible de lancer une campagne de bombardement seul. Il y aura besoin notamment des ravitailleurs américains. On a vu les KC-135 qui sont notamment du côté d'Eilat. Certes, ils restent, mais ils seront bien obligés d'entrer dans la danse. Donc, c'est compliqué. Et effectivement, conversation très longue. Si ma mémoire est bonne, la dernière conversation date de dimanche soir ou de lundi, où là, on l'avait dit, c'était relativement court, une demi-heure, et c'était une façon, ce qu'on comprend maintenant, finalement, de se dire, bah ça y est, allons-y, ouais. Et allons-y ouais. Ensemble. Et donc, ça devient très difficile, moralement, pour un Benjamin Netanyahou, qui en plus, va revoir un peu ses conseillers aujourd'hui, ce qui lui permet d'éviter d'être à la Knesset pour assister à la dissolution de l'Assemblée, du Parlement.
Il y a plein d'événements de politique intérieure en Israël.
Il y en a vraiment beaucoup de politique, mais aussi de justice intérieure. Oui. Vous savez qu'il essaye de vraiment étirer en longueur son procès. Là, on est déjà en train de bruisser sur les coalitions qui va rejoindre qui. Il y a que 120 députés dans cette chambre, mais c'est absolument impossible d'avoir le pouvoir seul. Ainsi est faite la loi fondamentale israélienne. Et donc, il aimerait bien qu'il y ait au moins des signaux de stabilité dans les décisions venant de ses amis et au premier rang desquels on trouve Donald Trump. C'est pas le cas.
Benjamin Netanyahou, dont l'obsession depuis 40 ans, il le dit lui-même, c'est de faire tomber ce régime iranien. Et tant que ce but n'est pas atteint, lui, il souhaite poursuivre les frappes. Et oui, mais tomber pour mettre quoi à la place? Ou mettre qui? Quand on lit ce matin le New York Times, on apprend que les Américains et les Israéliens, d'après le New York Times, auraient eu un plan pour faire émerger une figure qui est assez surprenante. C'est un visage que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais qu'ils ont visiblement eu envie de ressortir de sa résidence surveillée. Et ce visage, Fanny Wegscheider va nous le présenter. Un visage et un nom qui nous ramène quelques années en arrière, en fait.
Oui, en effet, l'ancien président de l'Iran entre 2005 et 2013, Mahmoud Ahmadinejad, c'est lui que Israël et les États-Unis ont souhaité remettre à la tête du régime lors du début de l'offensive, donc fin février 2026. L'ancien président qui a eu au fur et à mesure du temps des propos de plus en plus critiques à l'égard des dirigeants qui ont suivi dans le régime et qui a été très très surveillé également. Il a été évincé de plusieurs scrutins présidentiels en 2017, 2021, 2024. Et c'est une figure assez populaire chez les plus pauvres des Iraniens. Aussi, il a tenu des propos anti-corruption, bien que certains membres de son administration aient été condamnés pour corruption. Mais voilà le profil qui, dans certains traits, dans ces traits que je viens de vous décrire, aurait pu plaire justement à Israël et aux États-Unis dans le cadre de ce changement de régime.
Alors, dites-nous quel était le plan envisagé par Israël et les Américains.
Alors, le plan, c'était tout d'abord, donc, pour se faire de libérer de sa résidence surveillée Mahmoud Ahmadinejad, qui était assigné à résidence dans son domicile de l'Est de Téhéran, dans ce quartier, le quartier de Namrak. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Donc, on est fin février, après donc d'abord l'élimination de l'ancien ayatollah, des hauts responsables du régime, et bien là, c'est une frappe aérienne de l'armée israélienne qui a visé donc la résidence de Mahmoud Ahmadinejad, où il se trouvait lui aussi, mais surtout qui a visé précisément les gardes qui étaient en charge de surveiller donc son maintien à résidence. C'est là que ça a explosé. On va voir les images donc de cette attaque, de cette tentative de libération. Je dis tentative parce qu'elle a échoué en réalité, puisque après donc ce plan stratégique global qui était donc d'abord d'éliminer les têtes du régime pour placer Ahmadinejad à leur place, on a déclaré que l'ancien président était mort dans un premier temps, ce qui a été assez rapidement démenti, mais tout de même, il a été blessé dans cette attaque et à ce moment-là, il aurait perdu confiance dans ce plan américano-israélien et donc le plan aurait échoué. Depuis d'ailleurs, on n'a plus jamais revu publiquement Mahmoud Ahmadinejad, donc voilà les circonstances de ce plan.
Alors c'est quand même très surprenant parce que ce visage il rappelle des choses, et notamment des prises de position particulièrement dures vis-à-vis d'Israël et des Américains.
Oui, et d'autant plus que, selon le New York Times, des responsables américains ont déclaré que ce plan était plutôt risqué, parce qu'en effet, il a eu des positions très critiques à l'égard d'Israël, qu'il a jugé d'être un régime d'occupation qui devait disparaître du plan du temps. C'était en octobre 2005, lors d'un discours élogieux envers l'ancien Ayatollah. Il est également assez critique à l'encontre des États-Unis, bien qu'il apprécie plutôt Donald Trump, mais les États-Unis, il en parle assez mal de manière générale. Et puis surtout, il a aussi c'est un soutien assez fervent du programme nucléaire iranien. Donc là, ce sont les raisons qui font poser certaines questions sur ce choix qui a été fait par Israël.
Oui, c'est vrai, c'est assez stupéfiant ce que vous nous racontez, Fanny. Une réaction rapide, Antoine Basbouze, vous y croyez ou pas, vous? C'est quand même le New York Times, hein?
C'est fantasque. Ouais. C'est la folie. Imaginez que cet homme qui a pendant 2 mandats, donc 8 ans à la tête du pays, disait que tous les soirs il parlait au Mahdi dans son sommeil, eh bien, et qui est antisémite, qui veut rayer Israël de la carte, il n'a rien à voir avec les valeurs, la compétence, avec tout ce qui est occidental, tout ce qui est Israël. Donc, c'est pas un cadeau, c'est un ancien passe-d'Aran en plus. Ouais. Et donc, il a vendu les bijoux de la couronne au passe-d'Aran, il leur a confié toutes les richesses du pays. Donc, c'est pas un homme qui soit compatible avec ce que cherchent les États-Unis
et
Israël.
C'est assez sidérant ce qu'on a découvert ce matin dans le New York Times. Vous nous parlez des passes d'Aran, les gardiens de la Révolution. Vous savez qu'ils tiennent le détroit d'Ormuz et ils tiennent le détroit grâce notamment aux mines. Les services de renseignement américains donnent des informations, enfin, parce qu'il y a plein de mystères sur le minage du détroit d'Ormuz. Eh bien, il y a des informations un peu plus précises qui ont été diffusées et on vous les donne dans quelques instants. À tout de suite. Les événements continuent à se bousculer au Moyen-Orient, là, avec il y a quelques instants l'annonce par la Jordanie qu'un drone a été abattu dans son espace aérien, et puis également des précisions sur le minage du détroit d'Ormuz. On vous dira dans quelques instants quels sont les chiffres qui ont été donnés par le renseignement américain, des événements qu'on suit grâce à nos envoyés spéciaux qui sont déployés dans l'ensemble des pays de la région, mais également aux États-Unis, puis dans une station-service en France où le prix du sans-plomb augmente, mais le prix du gasoil en revanche est orienté plutôt à la baisse. On le verra dans quelques instants. D'abord, les dernières images et les dernières infos sur ce conflit, c'est avec Pauline Pioche.
Et d'abord, Julien, cette nouvelle menace, cette nouvelle déclaration de la part des gardiens de la Révolution en Iran qui promettent une guerre bien au-delà de la région en cas d'attaque américaine, donc bien au-delà de la région du Moyen-Orient. Et nos coups dévastateurs vous écraseront. Voilà ce que disaient les gardiens de la Révolution il y a quelques minutes. Menace finalement qui succède à celle de Donald Trump. Nous pourrions devoir leur donner encore un gros coup, je ne suis pas sûre pour l'instant. C'était il y a quelques heures. On va aller désormais sur le terrain parce que les frappes se poursuivent entre le Hezbollah et le Liban. D'ailleurs, ces frappes qui ont été très meurtrières hier au Liban. 19 personnes ont été tuées, dont 10 dans le district de Tyr. Il y a également eu des frappes au niveau du nord de Tyr, qui est la ville de Machouk. Et vous le voyez, les dégâts sont importants. Un immeuble s'est totalement effondré. Et puis enfin, je voulais revenir quand même sur la situation en France, parce que vous le savez, ce conflit a un impact dans votre quotidien, vous le voyez bien. Je voulais revenir sur les propos de Bruno Le Maire, il était l'invité de BFM TV ce matin, l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui craint une crise majeure en France.
On est face à un risque de choc économique et financier majeur dans les mois qui viennent, si la crise dans le détroit d'Ormuz poursuit. Donc soit il y a une solution diplomatique que je souhaite, soit à l'inverse, la crise se poursuit, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Cela provoquera à nouveau une augmentation des prix du pétrole, une augmentation des prix de l'alimentation, un risque de crise alimentaire aussi, puisque vous avez une augmentation très forte du prix des intrants, et à terme, de vraies difficultés économiques.
La difficulté économique qui pourrait aussi se répercuter, par exemple, dans les rayons de vos hypermarchés. Michel-Edouard Leclerc, qui est le président du groupe Leclerc, expliquait justement sur notre antenne qu'il craignait encore une augmentation de l'inflation.
Merci beaucoup, Pauline. On vous retrouve dans quelques instants sur le minage du détroit d'Ormuz. Vous allez nous donner des informations précieuses. D'abord, peut-être un petit détour par la Jordanie. Patrick, est-ce que vous avez des précisions sur ce dont je parlais il y a quelques instants? Un drone dans l'espace aérien jordanien.
Qui a été intercepté par les forces armées jordaniennes. On a un œil particulier, évidemment, sur la Jordanie, puisque nous avons, nous, des forces françaises qui ont pu participer, notamment pendant la guerre des 12 jours l'année dernière, à la défense de l'espace aérien jordanien. Mais il se trouve que les missiles partaient d'Iran pour aller jusqu'en Israël, et donc de façon quasiment directe, nous avions participé à la défense israélienne. Et donc c'est un message de plus pour le coup la Jordanie qui jusqu'au 7 octobre 2023 se prévalait d'être un peu la Suisse ou le médiateur de toute la région et qui se retrouve embarqué d'abord comment à la défaveur du conflit entre Israël et le Hamas, avec quasiment 40% de la population qui est d'origine palestinienne, embarqué vraiment dans ces conflits et qui jusqu'ici essayait là aussi de naviguer un petit peu et de se mettre un peu au-delà de ce conflit. Eh bien, ça rejoint tout ce qui a été dit finalement dans les menaces iraniennes. Exactement. Sur ces fameux nouveaux fronts. Ouais. On a eu les drones sur l'Arabie Saoudite, les drones sur les Émirats Arabes Unis.
Tirés depuis l'Irak.
L'Irak, ou depuis, semble-t-il, le Yémen. Eh bien maintenant, on a les drones sur la Jordanie. Encore un degré supplémentaire dans la tension.
Ça prolonge absolument ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure dans cette émission sur ces nouveaux fronts et sur ces menaces iraniennes de faire en sorte que le conflit se propage au-delà de la région et du strict golfe arabo-persique, une zone dans laquelle on va aller maintenant parce que Théo Bassilana nous y attend avec Nils Cambier. Vous êtes au bord du golfe, pas très loin du détroit d'Ormuz, et on vous retrouve parce qu'on a eu des précisions sur le minage du détroit d'Ormuz, ces mines qui ont été déposées par l'armée iranienne. Le renseignement américain, semble-t-il, a pu avoir des précisions après quelques semaines de flottement.
Exactement, il affirme qu'au moins 10 mines ont été localisées dans ce passage maritime et ces mines seraient présentes sous deux formes différentes. Tout d'abord, des mines mouillées sous la surface de l'eau, généralement ancrées par un câble, et puis des mines de fond qui, comme son nom l'indique, reposent sur le fond marin et se déclenchent grâce à ces capteurs acoustiques et magnétiques. Alors on pourrait se dire ce matin que le nombre de 10 est faible, mais tout d'abord on parle seulement des mines qui ont pu être détectées par les États-Unis. Et puis aussi, il faut se dire que la peur des mines est plus efficace aussi que les mines elles-mêmes. Maintenant, la question que l'on peut aussi se poser est la suivante. Est-ce que les Iraniens savent eux-mêmes où est-ce que ces mines sont positionnées et localisées? Plusieurs analystes doutent de cette capacité. Pourtant, de son côté, l'Iran semble avoir établi un couloir maritime sécurisé qu'elle utilise pour faire appliquer son nouveau mécanisme de gestion de ce détroit d'Ormuz. En d'autres termes, la stratégie, elle est très claire. Nous avons miné le détroit, donc à vos risques et périls si vous y allez. En revanche, regardez, nous connaissons un couloir maritime sécurisé, donc où vous pouvez passer sereinement, en échange, bien sûr, de droits de passage. Voici, Julien, une démonstration concrète de la nouvelle autorité du détroit appliquée par l'Iran.
Oui, c'est un point majeur sur lequel vous arrêtez, Théo, avec Nils Cambier, qui explique évidemment le nœud qui a été mis en place à la sortie de ce détroit d'Ormuz. C'est pour ça qu'on va prendre le temps de s'y arrêter et de se demander comment faire pour neutraliser ces mines avec Pauline Pioche, qui s'est penchée sur le sujet. Alors, même si ça ne semble pas beaucoup une dizaine de mines, est-ce qu'il y a des solutions pour les neutraliser, Pauline? Quelles sont?
Alors, l'une des clés, Julien, c'est... Voilà, l'engin que vous voyez là, qui est un drone, ça va vraiment être la clé pour déminer. C'est lui qui va permettre, ce qui se fait en plusieurs étapes, mais d'abord c'est de détecter, c'est de trouver les mines, et puis ensuite d'analyser, de savoir de quelle mine il s'agit, parce qu'évidemment elle ne se gère pas de la même manière. Alors comment ça fonctionne? C'est une espèce de prouesse technologique, parce que les drones sont équipés de plusieurs sonars qui vont permettre, par exemple, de cartographier les fonds marins. Ce que vous voyez là, il y a les deux sortes de mines dont vous parliez à l'instant. Ça permet de voir exactement où est-ce qu'elle se trouve. Les informations sont directement envoyées à un premier bateau qui est d'ailleurs automatisé, et puis à un deuxième bateau qui est ce qu'on appelle un bateau-mère, là où se trouve l'équipage. C'est à ce moment-là que l'équipage va prendre une décision sur la façon dont ils vont pouvoir gérer la situation autour de ces mines. Je voulais aussi vous préciser que vous voyez les drones qui ont cette tête blanche, en fait ils sont chargés d'explosifs. C'est eux qui vont détruire les mines. Là vous voyez, ils analysent de nouveau la mine. À nouveau, l'information est envoyée au niveau du bateau. Et là, une fois que la décision du commandant est prise, effectivement, la mine est détruite. Je précise donc que le petit bateau gris que vous venez de voir, il est automatisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pilote. Donc, c'est important de le préciser parce qu'il n'y a pas de risque, du coup, pour de potentielles vies humaines puisqu'il n'y en a pas à bord.
Alors, une autre solution, c'est justement, là, qui est plus risquée sur le plan humain, c'est d'envoyer des plongeurs.
Oui, alors là aussi, c'est en fait, ils vont travailler directement avec le système de drones, hein, ces plongeurs. Ils font en fait presque équipe avec les drones, parce que là aussi, on envoie d'abord les drones pour vérifier ce que ça donne au niveau de la zone où on a trouvé des mines. Et c'est après seulement qu'on envoie des plongeurs. La plupart du temps, en fait, le rôle du plongeur, ça va être de déposer des explosifs pour ensuite faire détruire ensuite les mines. J'ajoute quand même une petite précision, c'est le général Jérôme Pellistrandi qui me le disait, c'est que dans la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire dans le détroit d'Ormuz, il y a la présence de requins. Et ça, c'est important parce que du coup, pour envoyer des plongeurs, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dangereux. Je précise également que le déminage, c'est une vraie spécialité française. D'ailleurs, les images que vous avez vues à l'instant des drones sont fournies par une entreprise tricolore qui est vraiment à la pointe sur ce genre de technologie. Les Belges, les Italiens également sont très forts dans le domaine. Mais nous sommes également très expérimentés à ce niveau-là, c'est-à-dire avec nos plongeurs qui d'ailleurs œuvrent quotidiennement pour parfois des obus qu'on retrouve qui datent de la guerre mondiale.
Alors c'est un éclairage passionnant pour nous autres béotiens que vous nous donnez, Pauline Pioche. Évidemment, l'amiral Villemot-Roussel, lui, connaît tout ça par cœur. On a l'impression, avec ce qu'on vient de voir, amiral, que c'est un travail de fourmi, hein, ça se fait pas. Et puis surtout, il faut que la zone soit complètement sécure pour se lancer dans ce genre d'opération.
Oui, parce qu'on nous a montré effectivement, j'allais dire, des automates, donc... Pratiquement, on peut envoyer ces bateaux sans personne à bord, mais il faut voir que pas très loin, vous avez quand même, j'allais dire, tout l'état-major qui est en train de suivre l'opération. Mmh. Quand vous envoyez ces robots dans la mer, ben vous les suivez. Il faut pouvoir pister exactement l'endroit où ils se trouvent. Ensuite, vous envoyez le deuxième robot qui va poser la charge sur la mine pour le faire. Tout ça, c'est piloté bien évidemment par des équipes qui sont pas très loin. Donc il faut être dans une zone, j'allais dire, tranquille. Si vous êtes en train d'être bombardé, si vous êtes menacé, le travail ne sera pas bien fait.
Donc ça ne peut pas se faire avant la sécurisation militaire de la zone.
Absolument. Et puis après, c'est un jeu de statistiques. Vous allez faire ça un certain nombre de fois, et puis ce qu'on va vous dire, c'est bah, écoutez, avec les différents passages que nous avons faits, on peut estimer qu'il y a 80% de chances sur 100 qu'il n'y ait plus de mines. Alors, est-ce que votre assureur sera content du résultat en disant « Ok, on y va, s'il reste plus que 10%, je prends le risque ou pas ?» C'est à ce moment-là qu'on verra si le détroit est ouvert ou pas ouvert.
Ça permet de clarifier un peu les choses quand même, ces renseignements donnés par les États-Unis, Marie-Laure Buisson ?
Je pense d'abord 10 mines, si en effet il s'agit des mines, c'est quand même pas énorme, ça peut être nettoyé assez rapidement. Ouais. Par ailleurs, moi je ne crois pas beaucoup aux mines dérivantes, parce que qui dit mines dérivantes dit que par définition, au bout d'un moment, on ne peut plus les contrôler en fonction du courant. Donc je doute que les Iraniens aient pris les risques de voir ces mines revenir vers eux à un moment donné. Donc c'est probablement plutôt des mines à orin, c'est-à-dire rattachées par un câble au sol et tenues au sol par un crapaud, ce qu'on appelle un crapaud.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, entre
guillemets. Plutôt une bonne nouvelle parce que du coup on sait où elles sont. Ouais. Ou alors des mines qui sont en effet posées sur le sable en bas et qui se déclenchent de manière magnétique ou bien sonore. Ou bien parce qu'il y a un bruit particulier, voilà, acoustique, exactement. Merci de chercher le mot. Donc ces mines-là peuvent être déclenchées à distance. Bon, et ça, ce sont des mines. Mais nous autres Français sommes très forts, et votre intervenante l'a rappelé. Pour ça, on a deux sociétés magiques pour le déminage. Soyons un peu cocorico. Il y a Thales qui fait ça très bien, et surtout Exail, qui est une compagnie française qui fait ça très bien également. Et je peux vous dire que les pays du Golfe, je ne vais pas vous dire lesquels, mais nous ont acheté récemment un nombre impressionnant de notre matériel. Pourquoi, et ça c'est important, Julien, c'est que les Américains qui avaient des démineurs qui sont partis, petite parenthèse, se faire désosser à Philadelphie, dans les ports de Philadelphie, des démineurs de classe Avengers, eux, quand ils envoient un bateau, il faut le temps que le bateau arrive avec ses démineurs. Tandis que nous, le type de matériel que nous avons, nous autres Français, c'est du matériel qu'on met dans un avion cargo et qui arrive directement sur zone et qui agit sans personnel. Ce sont des robots, on les envoie sous l'eau et c'est terminé.
C'est vrai qu'il y a un certain nombre de productions d'armement français qui sont mises en valeur, entre guillemets, par ce qui se passe du côté du Golfe, et on y reviendra dans les jours qui viennent assez largement, parce qu'il n'y a pas que cet aspect du déminage. Il n'y a pas non plus que le front du Golfe arabo-persique dans cette guerre, vous le savez, il y a aussi le front libanais, et on va y aller au Liban parce que Élise Phillips nous y attend. Élise, vous êtes sur les lieux d'une frappe dans la région de Tyr, on est au Liban Sud, et ce que vous voyez autour de vous est évidemment particulièrement marquant et impressionnant parce que le bilan de ces frappes qui se sont déroulées il y a seulement quelques heures, il est particulièrement lourd.
Exactement, en fait, précisément avec Théo Touché, on est sur les lieux d'une frappe qui a eu lieu hier après-midi et qui a fait morts, au moins 10 morts pour l'instant, parce que des corps sont encore en train d'être recherchés par les secours et la défense civile libanaise. C'est une maison, en fait. Nous sommes sur les restes d'une maison qui a été complètement aplatie par une frappe israélienne hier après-midi. Cette maison, ce village n'était pas sous ordre d'évacuation. La famille qui se trouvait à l'intérieur n'a donc pas eu le temps d'évacuer. Et vous le voyez, il ne reste absolument rien, simplement des effets personnels, beaucoup de pierres, des gravats. La maison juste à côté aussi a été touchée, mais plus légère. Et en ce moment même, eh bien les secours et la défense civile libanaise sont encore en train de faire des recherches parce qu'ils sont encore à la recherche d'au moins 3 personnes, 3 voire 4. On discutait à l'instant avec un secouriste qui nous disait qu'il s'agissait sûrement d'une mère et de ses enfants. Il n'y a plus aucune chance de les retrouver vivants parce que la frappe elle a eu lieu hier vers 16h30 et ils ont été malheureusement, ils se sont retrouvés sous les décombres. Il y a encore beaucoup de poussière. Il faut vous expliquer aussi dans quel contexte on peut se trouver là. C'est un tour presse organisé par le Hezbollah. Il y a beaucoup de journalistes qui sont avec nous pour documenter cette frappe parce que, selon le ministère de la Santé libanais, c'est un massacre qui a été commis hier. 10 membres d'une même famille qui ont été tués dans cette frappe. Et encore une fois, ces recherches qui sont toujours en cours, c'est l'une des frappes les plus meurtrières de ces derniers jours.
Oui, on voit effectivement, c'est très très impressionnant les dégâts qui sont autour de vous, Élise Phillips, et que vous avez pu filmer avec votre équipe, Israël, Patrick, dont on voit qu'ils ne ralentissent pas du tout le rythme sur la partie sud du Liban, même si Beyrouth reste pour l'instant toujours relativement épargnée pour maintenir un semblant de cessez-le-feu. Quoi.
Oui, et sur ce front, Israël n'a pas besoin de l'autorisation des Américains. Ouais, autant ouais. On parle de la pression très forte pour pouvoir intervenir sur l'Iran, autant là, Israël mène sa guerre, une guerre qui passe par des bombardements massifs, qui touchent les populations et qui ne produit pas encore des effets en plus extrêmement forts. On avait vraiment l'impression que l'armée israélienne allait marcher sur le sud du Liban et ouais. Ils sont encore dans l'obligation de bombarder, quitte à faire énormément de civils parmi les victimes. Et ça n'est absolument pas terminé malgré les négociations et semble-t-il quand même, selon les médias libanais, une implication de plus en plus forte des Américains.
Et vous savez que ces deux conflits, bien sûr, sont directement liés. Il y a des conséquences ici en France, conséquences notamment économiques, conséquences du prix à la pompe. Alors, les dernières tendances sur les prix à la pompe, et on va retrouver Mathéo Rivière pour nous le confirmer dans une station, c'est que, en gros, le sans-plomb, ça monte et le gasoil, ça baisse.
Exactement, Julien. L'illustration parfaite dans cette station parisienne où on observe moins 28 centimes sur le prix du gasoil par rapport au début du mois d'avril, ce qui nous fait 2,10 € ici le litre. C'est forcément une bonne nouvelle pour les automobilistes que nous avons rencontrés qui attendaient avec impatience une légère baisse, eux qui serrent la ceinture depuis plusieurs semaines déjà, qu'ils soient artisans, chauffeurs de taxi ou bien en recherche d'emploi. Tous nous ont avoué être à la recherche de la moindre économie. Une bonne nouvelle, même si ils attendent un petit peu plus de la part du gouvernement, peut-être encore plus chez les automobilistes qui roulent à l'essence, parce que vous le disiez, elle a augmenté de près de 30 centimes par rapport au début du mois d'avril. Alors tous sont unanimes, ils attendent avec impatience les annonces faites demain par Sébastien Lecornu.
Et le président de l'Organisation pour aller dans votre sens des transports routiers européens est avec nous sur ce plateau. Il va nous dire ce qu'il attend de ces annonces. D'abord le timing, Guillaume, il y a eu un conseil des ministres ce matin, et Sébastien Lecornu qui parle demain.
Oui, conférence de presse demain en fin d'après-midi, à suivre bien sûr sur BFM. Un élément ne changera pas, des aides ciblées, pas de chèque généralisé. Pourquoi ? Parce que l'argent, il n'y en a plus dans les caisses, c'est ce qu'avance très clairement Sébastien Lecornu. Donc élargir des aides, oui, mais toujours à certains secteurs ciblés, de façon mensualisée, pour voir si chaque mois allant, la crise s'aggrave ou au contraire, ça va un peu mieux, parce que l'analyse du Premier ministre, ça reste la même. En l'état, il faut rester prudent, lui-même l'est, ça reste une crise d'approvisionnement, parce qu'on ne peut pas sortir le pétrole. Pour l'instant, les infrastructures n'ont pas été touchées au point de ne plus pouvoir produire. Donc c'est pour ça que ce sera un élargissement des aides, mais des aides ciblées.
Et il y a les particuliers, et il y a donc les professionnels. Alexis Giberg, décrivez-nous la situation actuelle dans votre secteur.
Oui, les transporteurs routiers aujourd'hui en France ont été les premiers impactés par la crise géopolitique en Iran, comme d'ailleurs à l'époque de la crise en Ukraine, parce que finalement nous achetons du carburant tous les jours, nos véhicules en ont besoin, et c'est 80-90% de TPE, de PME, le secteur du transport routier, de marchandises comme de personnes. Donc finalement, premier impacté, et c'est nous qui avions le plus besoin rapidement d'aide ciblée permettant de faire face à ce choc immédiat. Et donc, pour le moment, on n'a pas encore reçu le moindre euro. C'est-à-dire que les annonces ont été faites, nous avons été entendus sur le besoin d'avoir des aides ciblées. Mais
la trésorerie, elle souffre quoi?
Et la trésorerie souffre. On voit bien que finalement, on est dans un marché avec une grande fluctuation, des hausses, des baisses. Tout ça est lié à une conjoncture internationale complexe sur laquelle nous n'avons pas prise, nous, bien sûr, transporteurs routiers. Et donc finalement, on dit oui, bravo, on a bien compris, le gouvernement a bien compris, et c'est une bonne chose, qu'il fallait des aides ciblées parce que nos entreprises en ont besoin, elles sont stratégiques, elles sont en première ligne, et nous sommes vraiment éligibles à ces aides immédiates et ciblées, et peut-être même de manière suivie, continue. Il faut qu'elles arrivent, ouais. Il faut qu'elles soient simples, il faut qu'elles soient faciles à décliner.
Et elles sont bien dimensionnées, ou est-ce que vous attendez des aides encore supérieures demain?
Le problème, c'est peut-être que vous aidez tout de suite de manière ciblée, mais c'est de l'argent public. Et puis on n'a pas beaucoup d'argent public. Et
il faut le trouver ailleurs. Et toute dépense nouvelle sera gagée ailleurs, c'est par des économies, l'a dit le Premier ministre.
Mais pour autant, il faut le faire et on le salue, parce que sans cette aide-là, nos entreprises ne tiennent pas. Encore une fois, ce sont des petites structures avec des marges très faibles et avec des coûts qui ont explosé sur des durées extrêmement rapides. Pour autant, ce n'est pas suffisant. Donc il faut avoir un système de pilotage qui permet sur le plus long terme, je pense que le gouvernement et les annonces de M. Lecornu peut-être confirmeront ça, mais on est dans une approche de long terme. Il va falloir bien comprendre que finalement cette crise s'installe, ouais. Et il va falloir trouver des solutions structurelles pour nos entreprises pour mieux répercuter les coûts et les faire payer à nos clients.
Exactement le sens du message que diffuse de plus en plus, c'était pas trop le cas au début de la crise, mais de plus en plus ces derniers jours, Sébastien Lecornu et les membres du gouvernement qui disent attention, ça va durer, on l'a vu hier avec Roland Lescure, également le ministre de l'économie, et donc cette conférence de presse très importante que vous suivrez sur notre antenne demain, tout comme vous suivrez dans quelques instants Christophe Delay et Roselyne Dubois. À demain.